tous et bienvenue dans Tech Café. Je suis votre hôte Guillaume Vendée. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour ce 109e épisode. Au sommaire de cette émission que nous enregistrons le 4 décembre 2018, la Chine représentera une bonne part de cette émission et notamment la première partie. Nous commencerons par toucher du doigt l'événement qui fait trembler l'univers de l'éthique médicale avec ce qui est probablement le premier cas historique de manipulation génétique sur des êtres humains. Et puis nous profiterons de notre séjour en Chine pour explorer en profondeur également tous les enjeux appliqués localement en intelligence artificielle ou en lien en tout cas avec la Chine. RE2.invente, c'est le nom de la conférence d'AWS, Amazon Web Services, l'entité d'hébergement cloud d'Amazon, sur lesquelles il y aura évidemment matière à longuement s'attarder. Nous prendrons évidemment le temps de développer quelques news en bref, sans oublier bien entendu nos bonus. Pour cet épisode et pour traiter tous ces sujets d'importance, je retrouve le chroniqueur compulsif qui semaine après semaine épluche la presse tech pour vous faire part de notre sélection. J'ai nommé Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume.
Oui, bonjour à tous.
Comment vas-tu ?
Ben, ça va pas trop mal pour l'instant.
Bon, je vais essayer de profiter des moments où tu parleras pour déguster ma petite tisane au miel que je me suis faite. Parce qu'évidemment, c'est la saison des rhumes et comme on le disait juste avant l'enregistrement de l'émission, j'avais une toux compulsive là et j'ai essayé de la calmer avec une tisane et tu as suggéré intelligemment de rajouter un petit peu de miel. Donc je fais ma petite cuillerée de miel. Tu sais, il y a plein de podcasts qui s'enregistrent autour d'alcool, de bière, qu'est-ce que tu bois pour cette émission ? Là, c'est la petite tisane au miel, c'est mignon.
Ouais, ça nous fait passer pour des vieux ? Non.
Oh, peut-être, mais on n'est peut-être pas si jeunes que ça non plus, d'un autre côté. Allez, vous pouvez réagir en tout cas à l'émission et à tous les sujets qu'on va aborder sur techcafé.fr. Vous pouvez aussi réagir bien évidemment sur les réseaux sociaux et vous pouvez discuter avec nous sur le groupe Telegram dont vous avez le lien dans les notes de l'émission. Et puis si jamais vous le souhaitez, si jamais vous trouvez que cette émission, c'est un peu votre rendez-vous incontournable en podcast qui vous plaît, qui vous fait rire, qui vous détend et vous avez toujours pas mal de plaisir à écouter toutes ces news tech qu'on peut vous dérouler. Je vous rappelle que Tech Café est évidemment disponible gratuitement pour tout le monde, mais aussi soumis à votre participation sur Patreon. Alors c'est quelque chose d'évidemment très volontaire, mais vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur patreon.com/techcafé, l'interface est assez facile, y compris sur mobile, et vous permettra très intuitivement de participer à la hauteur de vos attentes. Pour chacune des émissions diffusées dans Tech Café, vous pouvez d'ailleurs plafonner vos participations, vous pouvez les suspendre à tout moment. Ça fait partie de ces offres sans engagement dont on est si friand maintenant dans l'univers de la tech. Sans autre forme de procès, Guillaume, on attaque avec nos news, avec une première rubrique qui va aborder plein d'aspects autour de la Chine. Toute la veille de Guillaume, qui va constituer une bonne partie des éléments qu'on va relayer dans cette émission, était pour cette partie tournée autour de la Chine et de l'intelligence artificielle, ou de manière générale autour de la tech. Et je voulais juste rajouter, ça me tenait un petit peu à cœur de relayer un sujet qui, moi, m'a pas mal marqué, qui est celui de la première, a priori, hein, on n'a jamais de certitude avérée sur le sujet, la première fois où on a une modification génétique sur des êtres humains. C'est en Chine que ça s'est passé avec, a priori, ces deux jumelles qui s'appellent Lulu et Nana. Enfin, a priori, c'est peut-être même plutôt des noms qu'on leur a donnés dans le cadre de la présentation. Parce qu'évidemment, ces jumelles et leurs parents et tous leurs proches sont restés anonymes dans le cadre de ces présentations. C'est un docteur donc chinois qui a fait cette annonce. Le docteur, excusez-moi si j'arrache le nom, He Jinkakui, et qui a présenté dans le cadre d'une conférence en Chine ses travaux sur le sujet en s'appuyant sur un outil sur lequel on pourrait revenir d'ailleurs, mais il nous faudrait des experts, je pense, qui expliqueraient mieux que nous comment ça fonctionne, CRISPR-Cas9. C'est une invention d'ailleurs française, je crois, hein, mais qui a comme objectif de modifier des séquences génétiques. Et il a appliqué du coup une modification génétique sur deux bébés de fécondation in vitro qui ont été préparés pour les rendre plus résistantes au sida, puisque le père est séropositif. Et a priori, il y a une intervention sur le gène qui s'appelle le gène CCR5. Et en désactivant ce gène, a priori, en tout cas c'était la volonté de départ, on rendrait la personne plus résistante au virus du sida. Alors, évidemment, c'est une boîte de Pandore qui s'est ouverte hein, avec quelque chose qu'on ne maîtrise pas du tout. Et c'est d'ailleurs l'enjeu pour lequel les organismes génétiquement modifiés humains, c'est quelque chose qui est aujourd'hui très, très dénoncé et qui est évité par la communauté internationale et sur l'éthique. En raison notamment, il y a plein de raisons, hein, mais notamment du fait qu'on ne sait pas ce à quoi il faut s'attendre derrière. D'ailleurs, ce qui est assez paradoxal, c'est que cette modification du gène sur les deux bébés, déjà ne s'avère pas efficace, au moins pour un des deux bébés qui n'a pas visiblement réussi à répondre aux résultats de l'opération. Et puis même en ayant modifié ce gène, en ayant désactivé l'expression de ce gène, en plus, d'après les médecins et les analyses qui ont été faites, a priori ça le sensibiliserait, le bébé, à d'autres maladies. Donc ce qui est assez paradoxal quand même, c'est de vouloir protéger contre le virus du sida et tout en ouvrant notamment alors le virus de la grippe hein, je crois, mais aussi à d'autres maladies. On peut aussi peut-être s'attendre à ce qu'il y ait une altération de certaines fonctions cognitives de l'apprentissage quand les enfants vont grandir. Alors la première réaction qui pourrait y avoir assez facile, c'est « Ah, ça se passe en Chine, comme par hasard ». Bon, et en fait, c'est peut-être pas si simple d'associer ça à l'image qu'on peut avoir de la politique en Chine et des initiatives chinoises. Alors évidemment, c'est pas une initiative d'un docteur qui a fait ça sur ses deniers personnels, sur une espèce de coup de tête, puisqu'on estime l'opération à en gros 1 million de dollars. Donc effectivement, il y a forcément des autorités derrière, si ce n'est étatique, au moins au niveau du laboratoire dans lequel travaille le docteur. Il y a une enquête, en tout cas en Chine, et il y a une dénonciation même de certaines autorités chinoises. Il y a même eu d'ailleurs des éléments comme par exemple le site du labo qui a été fermé, des éléments du site du ministère des Sciences qui a été débranché. Mais au-delà de cette dénonciation par l'autorité chinoise, ça met en lumière le fait qu'il y a une absence de sanctions, une absence de législation sur... En fait, on est tellement parti du principe qu'il fallait pas le faire qu'on n'a pas défini ce qui pouvait se passer en matière de sanctions le jour où ça arriverait. Et là, ça arrive. Et donc, évidemment, on est aux portes de plein d'autres nouveaux problèmes. J'imagine que cette première intervention ne sera peut-être pas la dernière. Et je pense que sur le plan historique, on est peut-être en face de quelque chose sur le plan de la technologie appliquée à l'univers j'ose pas dire du médical, mais en tout cas de la gestion de l'être vivant et en particulier de l'humain, on est peut-être sur quelque chose de très très marquant. Voilà, je vais pas m'attarder plus sur des détails techniques, sur des éléments de fonctionnement. Moi, c'est un élément qui m'a beaucoup plu et qui m'a intéressé et que j'ai aimé surveiller dans la veille. Peut-être qu'on pourra revenir dedans, même si c'est pas le fondement de Tech Café d'aborder ce genre de sujet. Mais moi, ça me tenait à cœur un petit peu qu'on puisse au moins mentionner le sujet pour le porter aux oreilles de ceux qui se intéresseraient à la tech au sens large et qui n'aurait pas vu passer cette news. Est-ce que tu as vu passer cette news et si oui, est-ce que ça t'évoque quelque chose, Guillaume ?
Oui, bah c'est difficile de ne pas avoir vu passer la news quand même, hein, parce qu'elle est passée un petit peu partout. Ça a été vraiment beaucoup relayé, ça a été un gros scandale. Même en Chine, hein, tu l'as dit. Apparemment, d'ailleurs, j'avais compris que le gars fait plus ou moins sa recherche en douce, en tout cas que c'était pas très connu. Enfin, en tout cas, c'est vraiment quelque chose qu'il a fait sans que la communauté scientifique soit complètement au courant, quoi.
Et sans présenter de données et sans en plus les soumettre à une revue des pairs, comme c'est normalement le cas pour ce genre de... Enfin, pour des opérations de type recherche sur le plan médical.
Oui, mais ça pourrait arriver par contre, hein, parce qu'il a des données justement qu'il a soumises, il me semble, à la revue Cell, qui est donc une revue de biologie. Hein, et du coup, je pense que ça va arriver. Les données, elles vont arriver.
Même ça posait a priori des problèmes, je pense. C'est une espèce de truc insoluble, parce que, alors oui, on vous dit beaucoup de choses aussi au conditionnel, hein, parce que vous avez compris que c'est un sujet qui pouvait nous intéresser, mais dont on ne pourra pas présenter la moindre expertise, mais typiquement donner ce type de... divulguer, transmettre ce type de données, c'est aussi très encadré, ne serait-ce que par le gouvernement chinois, contrairement à ce que moi je pensais, c'était peut-être un peu plus libre, mais typiquement des données sur un génome comme ça, sur des travaux de recherche, ça a l'air d'être assez encadré, et a priori je ne sais pas s'il a pu donner tout ce qu'il pouvait, et je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que ça n'a pas fait l'objet de, je ne sais pas, un équivalent de chiffrement, tu vois, sur les données qui ont été divulguées.
Ben oui, ça j'en sais rien du tout honnêtement, hein, je pourrais pas te dire. Je sais pas. Je sais qu'il y a il y a forcément une anonymisation des données génétiques, hein, tu dois transmettre des données génétiques, mais à part ça, je sais pas exactement. Ouais. Sinon, bon, bah, de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je t'en dise de plus, hein? T'as tout dit, hein? C'est parti en couille, hein, évidemment, puisque c'est le problème, si tu veux, c'est que il a fait ça sans raison médicale, parce qu'il n'y a pas de raison, en
T'as
fait,
raison.
de...
La
Enfin, tu
justification
vois,
n'est pas bonne.
non, mais elles n'étaient pas
Pas
malades,
bonne.
hein. Et puis, elle ne courait pas de risque particulier, même avec un père séropositif, il faut aller chercher loin quand même, hein. Éditer les gènes de gamin parce que son père est séropositif, il faut quand même aller y aller fort, quoi.
Ouais.
Donc, c'est... Non, je pense que c'est un
Ça, c'est un
énorme
peu
coup
de
de com', parce
prétexte,
que...
d'ailleurs, probablement.
Oui, mais parce que probablement un truc assez simple à faire, hein, tout simplement. Hein. C'est-à-dire qu'avec CRISPR, CRISPX, là, tu arrives probablement
CRISPR-Cas9.
à couper les trucs, à couper des trucs un petit peu à la ramasse, et puis bon, voilà, tu peux virer des gènes comme ça. Cela dit, moi, j'avais pas vu j'avais pas vu de trucs précis. C'est-à-dire, en ce qui concerne les effets secondaires, est-ce qu'on sait réellement quels effets secondaires il va y avoir? Parce que
Non,
CRISPR-Cas9,
il n'y
il
a
me
rien
semblait que
affirmé.
c'était pas aussi précis et chirurgical que ça, quoi.
Non, non, a priori, c'est des évaluations qui sont faites, mais qui sont très complexes à interpréter. Typiquement, moi, dans le cadre de la veille que je faisais sur le sujet, je découvrais que, ça va paraître trivial peut-être aux yeux de beaucoup, ou aux oreilles de beaucoup, mais l'expression des gènes, c'est pas t'as un gène et il s'exprime ou pas. Enfin, on sait que c'est plus compliqué que ça et qu'il y a des notions de récessif, etc. Mais il y a aussi le fait que la cartographie de notre génome ou du génome des êtres vivants est en 3D. Et donc parfois, tu as des éléments de gènes d'un côté, d'autres qui sont sur des chromosomes qui n'ont rien à voir, qui sont à deux parties complètement opposées du patrimoine génétique, et qui, associés l'un avec l'autre, donnent des conséquences différentes. Donc, on sait à quel point aujourd'hui c'est compliqué. Je pense typiquement cet aspect qu'on qualifie de 3D des chromosomes, de l'expression des gènes, ça date d'il y a 4-5 ans à l'échelle de la recherche. Donc c'est très très jeune. Je pense qu'on sait finalement très très peu de choses. Et les éléments que je cite là, qui est d'exposer a priori la personne plus facilement à des virus comme la grippe ou à d'autres virus et peut-être d'altérer, comme je disais, certaines fonctions cognitives lors du développement de l'être humain, de la personne. C'est des choses qui sont pas affirmées, quoi. C'est des choses qui sont suspectées, mais qui sont pas affirmées aujourd'hui.
Oui, donc effectivement, c'est quand même assez irresponsable de modifier des gamines alors qu'elles sont pas malades,
C'est
sans
ça.
avoir aucune certitude sur les effets secondaires, sachant que on a modifié aussi toute la lignée, c'est-à-dire que même leurs cellules germinales vont être affectées, donc tous les enfants qu'elles pourraient avoir auront aussi cette mutation-là.
Bien sûr.
Du coup, c'est vrai qu'on a modifié pour la première fois, hein, effectivement, c'est quand même historique, hein, la lignée germinale humaine. Et c'est vrai que, bah oui, ça fait un petit quelque chose malgré tout. Hein, on va se dire, parce que, on va pas se mentir, c'est vrai que ça m'étonnerait que ça soit pas. C'est vrai que ça a ouvert une porte, quoi. Alors, je sais pas exactement si ça va motiver les gouvernements enfin, les gouvernements et les chercheurs, si tu veux, à être beaucoup plus sévères et à tout fermer. Ou si, au contraire, ça va ouvrir des horizons, tu vois.
Ouais, je sais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, j'ai le sentiment à chaud que ce que ça va déclencher, ça va de définir des sanctions, parce qu'encore une fois, il y a les comités éthiques qui sont d'ailleurs assez bien organisés, je crois, à l'échelle internationale, enfin, en tout cas, qui donnent l'impression d'être assez bien organisés à l'échelle internationale, n'avaient pas défini, comme je disais, des sanctions, quoi. C'est le truc, c'est tellement établi qu'il ne faut pas le faire, que personne ne s'est jamais dit, si jamais ça arrive, qu'est-ce qu'on va lui mettre comme punition, quoi. Bon, ben, je pense que là, ça va permettre d'établir le sujet, peut-être.
Après, les super soldats, c'est quand même pas non plus pour demain, parce qu'on ne sait pas
Non.
exactement ce qu'il faut modifier pour rendre quelqu'un super, quoi. Tu vois, c'est un peu le problème. Et pour éviter de le rendre débile en même temps, ça va être assez compliqué. Donc, bon, c'est le tout début. C'est vrai que c'est un petit peu l'année zéro, quoi,
Oui.
voilà, des humains en tant qu'OGM, comme le maïs. C'est intéressant.
C'est intéressant de le relever. On va pas aller plus loin, mais moi, ça me tenait effectivement à cœur qu'on puisse en parler. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont plus proches des sujets qu'on a l'habitude de parler. Ça va être pour partie des follow-up, enfin des suivis d'infos qu'on a déjà donnés, des évolutions, mais aussi de nouvelles news. Tu voulais notamment nous parler, alors pendant qu'on est en Chine, on va en profiter, on va dérouler toutes les news sur le sujet, Guillaume, de la taxation des terres rares chinoises, notamment en lien avec, évidemment, les États-Unis. Il faut que tu nous fasses un petit résumé de ce qui se passe là.
Ouais, bah c'est parce que c'est intéressant de voir comme c'est compliqué, en fait, la géopolitique. La géopolitique, c'est compliqué, voilà. Parce que la Chine et les États-Unis sont en guerre commerciale à grands coups de taxes douanières, et évidemment, ça fait pas les affaires de la tech, hein. Donc j'avais parlé des taxes qui pourraient augmenter le prix des appareils fabriqués en Chine de 10% pour les consommateurs américains. Je pourrais aussi parler de cette merveilleuse idée de taxer les terres rares en provenance de Chine, parce que la Chine, c'est quand même 90% du marché des terres rares. Et les États-Unis sont très dépendants de ça pour dynamiser, pour fabriquer, parce que, en fait, ils font fabriquer énormément d'électronique, ils utilisent beaucoup de ce genre de trucs, et c'est vrai aussi pour leur armée, d'ailleurs. L'armée est très dépendante des terres rares chinoises et ça les emmerde bien. Et du coup, pour dynamiser les mines américaines, quoi de mieux que de taxer les importations chinoises? Ça, c'est
A
le
priori,
raisonnement de
c'est une
Trump.
bonne idée, ça.
A priori, ça peut paraître être une bonne idée, sauf que c'est plus compliqué puisque les gestionnaires de la mine Mountain Pass en Californie l'ont constaté. Tu vois, les terres rares qui sont extraites aux États-Unis, ben, elles doivent être envoyées dans les usines en Chine pour y être traitées et rendues vendables. Du coup, y a la taxe de 25% qui va être imposée par l'administration Trump. Ben, ça va peser quand même pas mal sur ces terres rares qui sont made in USA, mais qui viennent quand même de Chine. Et ça va bouffer les bénéfices de Mountain Pass à tel point que ben, il n'y a plus d'argent pour réinvestir. Et devine quoi? Construire une usine sur le sol américain, qui n'aura plus besoin de l'usine chinoise. Donc, réduire les dépendances aux autres pays, c'est pas une mauvaise idée en soi, évidemment, mais c'est quand même chaud, quoi. Alors, pour le moment, heureusement, t'as vu, c'est la trêve. Au G20, la Chine et les États-Unis ont décidé de laisser les taxes comme elles sont pour 90 jours à compter du 1er janvier 2019.
Ils font la paix.
Et ça, c'est pour laisser le temps de la discussion, quoi, hein, et pour arriver à un accord. C'est un gros volume, hein, puisque le volume taxable, c'est 200 milliards de produits qui sont actuellement taxés à 10%, qui pourraient monter à 15% si aucun accord n'est trouvé. Bon, évidemment, s'il n'y a pas d'accord, bah, effectivement, les prix de l'électronique vont augmenter. Et voilà, et donc, je ne sais pas exactement, mais probablement dans le monde entier. Donc, évidemment, c'est quand même quelque chose qui nous touche un petit peu. C'était intéressant de le relayer, sans doute.
Ouais, j'ai le sentiment quand même que la médiation entre les deux entités, je me trompe peut-être, hein, finira par s'imposer au bon sens de tous. Mais bon, on verra ce que ça donne, évidemment. Un sujet aussi qui touche beaucoup la Chine, mais qui est initié aussi sur le sol américain, encore une fois, c'est le projet, notamment Dragonfly, qui est ce projet de moteur de recherche de Google, mais sur mesure pour la Chine. Et là, il y a des petites news, notamment en lien avec la politique américaine et Sundar Pichai.
Oui, bah oui, c'est parce que c'est le 5 décembre que Sundar Pichai va être entendu par le Congrès et il devra répondre sur deux sujets principaux, hein. D'une part, les allégations par Donald Trump sur un prétendu biais politique de Google contre lui, bien sûr. D'autre part, le projet Dragonfly, effectivement, ce supposé moteur de recherche, hein, que Google préparait. Bon, ça va être une occasion d'en savoir un petit peu plus sur ce truc-là. Parce que bon, bah, Sundar Pichai va bien être obligé de répondre aux questions, quoi. Et bon, c'est un projet qui fait à peu près l'unanimité contre lui, hein, on l'a dit, même chez les salariés d'entreprise. Et les grévistes, d'ailleurs, dernièrement, ont levé un fonds de 100 000 dollars pour soutenir le mouvement de grève. Donc, évidemment, c'est le témoignage de Pichai sera écouté avec beaucoup d'attention, en particulier pour Dragonfly. Bon, pour le biais contre Trump, il y a déjà de multiples études, de multiples articles qui détaillent qu'en fait, bah, c'est pas vrai, tout simplement. Donc, bon, bah, ça, chacun se fera son idée.
Ouais, alors au passage, hein, 100 000 dollars, c'est rien à l'échelle de Google, mais il n'est pas question d'un budget pour contrer Google, c'est un budget pour soutenir la grève. Et je pense qu'avec un budget de 100 000 dollars, on peut en faire de la grève, je pense. Enfin, ça donne des moyens, en tout cas, de se faire entendre. En Chine, donc là pour le coup vraiment sur le sol chinois, on va s'attarder un petit peu sur des éléments qu'on a eus sur le fonctionnement des voitures électriques, qu'elles soient chinoises d'ailleurs ou d'autres origines de fabrication, sont soumises à un fonctionnement de surveillance et de traçabilité quelque part. Ça, c'est assez intéressant de voir à quel point il n'y a pas que ce qui est fait en Chine qui fait l'objet d'une surveillance, mais aussi ce qui arrive sur le sol chinois, en l'occurrence, Guillaume.
Ouais, c'est Associated Press qui révèle que virtuellement tous les fabricants de voitures électriques suivent à la trace leurs véhicules en permanence et transmettent ces données à des serveurs chinois. C'est d'ailleurs imposé par la loi chinoise, donc grosso modo, si tu veux être en Chine, tu es obligé de faire ça. Alors, pas de panique hein, quand même, il y a dans les 220 000 véhicules électriques qui sont donc effectivement suivis en temps réel, mais anonymement. Les données sont anonymisées et, bah, comme le
Tout
dit
va bien.
Ding Shawa, Ding Shaohua. Il va falloir vraiment qu'on s'entraîne à prononcer des noms chinois
Oui, je
pour
suis
la prochaine
d'accord. En
décennie,
plus, il n'y a
hein,
peut-être
je
pas
crois.
tant de boulot que ça à faire pour bien
Non,
prononcer.
ça,
On
sans
ne
doute
demande
pas,
pas
sans
quand
doute
on est
pas.
bien prononcé.
Donc, Ding Shaohua, on va dire ça, responsable du centre de Shanghai, donc, hein, qui il dit, bon, lui, clairement, il dit, ce suivi n'est pas pour la surveillance. Tout est anonymisé, c'est juste pour faire des études, pour gérer éventuellement les embouteillages et ce genre de trucs. Et il dit un truc qui me semble finalement assez juste. Il dit, bah, le gouvernement chinois, de toute façon, n'a pas besoin de ces données pour surveiller sa population. Et là-dessus, je crois que je peux lui faire confiance.
Il a de la ressource à côté de ça, très bien. Ben en tout cas, moi je ne connaissais pas ce fonctionnement. Je me demandais du coup si il y avait, mais j'imagine que oui, des suivis comme ça, des flottes de véhicules en dehors de la Chine. Enfin, tu vois, ça ne me semblerait pas du coup étonnant que ben, partout dans le monde, Tesla peut-être ait des données sur où sont ces véhicules, tu vois, en temps réel, quitte à ce qu'ils soient chiffrés, anonymisés et qu'il y ait des. Je sais pas, des informations qui soient pas précises, j'en sais rien, au mètre près, mais je serais pas étonné, en
Bah,
fait, non?
dans les voitures françaises, tu peux déjà avoir des alarmes
Ah oui.
qui utilisent le réseau 4G pour être. Et donc, je suppose que si un constructeur veut savoir quelle voiture, quel numéro de série de voiture
Oui.
est où, peut-être que c'est possible,
Oui.
effectivement. Après, ça ne veut pas dire qu'ils le font, parce que
Ouais.
peut-être juste ils s'en foutent, hein, pour le moment en tout cas. Bon,
Ouais, je suis
ça
pas
pourrait
sûr que ce soit
changer.
la donnée qui les intéresse le plus pour vendre leur voiture. Enfin, c'est une donnée, mais c'est pas forcément le truc le plus précieux à ce stade, en tout cas. On continue, bah, du coup, évidemment, hein, à parler de voiture, parce que là, on parle de Tesla, on va continuer un petit peu à en parler. On sait qu'il y a une fonctionnalité assez bluffante dans les Tesla, qui, bah, du coup, est capable de t'alerter quelque part, hein, quand tu sembles t'endormir. Bah, ça veut bien faire l'autopilote jusqu'à un certain point, Guillaume.
Ouais, mais jusqu'à un point très 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 loin quand même, 10 km pour être précis. Parce que ça, là, tu vois, on est un petit fait divers, assez futuriste, mais à mon avis qui va se reproduire à l'avenir beaucoup, qui va être très courant. C'est qu'un homme a été repéré endormi au volant de sa voiture sur une autoroute de Palo Alto en Californie. Et en fait, sa Model S avait continué de conduire seul sur plus de 10 bornes avant que les policiers ne réussissent
C'est
à
long, 10
l'arrêter.
bornes, hein?
C'est très très long et ils savaient pas comment l'arrêter, donc du coup ils ont été obligés de doubler le véhicule et de forcer la voiture à ralentir petit à petit. Et elle a fini par s'arrêter quoi. Et du coup le chauffeur a été arrêté pour conduite en état d'ivresse, hein, parce que bon globalement il était complètement bourré. Et son autopilote donc lui a sauvé la vie tout simplement. C'est un cas un peu étrange quand même, puisque l'autopilote est censé détecter la présence des mains sur le volant, comme tu l'as mentionné.
Ouais.
Et donc, la voiture aurait dû ralentir et s'arrêter d'elle-même, bah, presque tout de suite, et pas continuer, quoi. Et pourtant, le plus beau, c'est que c'est pas le premier cas. En janvier dernier, il y a un autre mec endormi au volant d'une Tesla qui a été arrêté, bourré, lui aussi, mais il était bourré mais pas inquiet, parce qu'il avait mis l'autopilote, et donc il se disait, bah oui, capitaine, voilà, j'ai mis l'autopilote, c'est bon. Donc c'est bien maintenant, tu vois, le capitaine de soirée, maintenant ça peut être ta Tesla. Ça c'est quand même très très cool.
Sam, c'était cela.
Exactement,
Celui
non.
qui
Bon, en
roule.
fait, non, je le dis bien sûr, évidemment que non. L'autopilote, c'est pas fait pour ça. C'est toujours interdit de rouler bourré. Hein, et il faudra encore attendre quelques années avant de rentrer chez soi en combat éthylique, un taxi Waymo. Je pense qu'on n'en est pas encore là, quand même.
Et
Mais ça
juste,
pourrait venir vite.
ça pourrait venir plus vite qu'on le pense. Justement, sur ce sujet-là, moi j'avais un truc qui me trottait dans la tête, et tu sais, comme beaucoup de trucs qui me trottent dans la tête, je ne sais pas si c'est des trucs foncièrement idiots ou qui ont suffisamment de sens, et comme je ne suis pas arrivé à me faire une opinion, je préfère de te le soumettre pour en échanger avec toi. Je me demandais dans quelle mesure est-ce que, quand on voit que ce sont des algorithmes et donc des ordinateurs qui conduisent ces véhicules-là, au moins en partie, et peut-être que demain d'ailleurs, ils conduiront la totalité des véhicules à notre place. On a dit que ce serait peut-être pas demain la veille pour tous les particuliers, mais enfin bon, admettons, mettons-nous dans une situation où les gens ne savent plus conduire, il n'y a plus de volant et ce ne sont que des robots qui conduisent. Est-ce que finalement, il n'y aurait pas de la légitimité à ce que les gouvernements imposent aux fabricants de voitures une interopérabilité avec, mettons, une télécommande. Donc imagine que le policier aurait une télécommande qui pourrait, grosso modo, prendre le pas sur un véhicule qui conduirait demain pour, bah, j'en sais rien, effectuer des contrôles, arrêter des fuyards, pour des besoins bah, pour la protection de la population, etc. Est-ce que ça te semblerait intelligent ou abusif?
Oh, ça c'est casse-gueule comme question. Hein. Ça c'est
Moi,
casse-gueule
j'arrive
parce qu'en
vraiment pas à me
fait,
faire une opinion sur le sujet, quoi.
alors le truc c'est que a priori ça pourrait être tout à fait logique effectivement. Hein, je veux dire, il y a un mec, un forcené en bagnole qui veut pas s'arrêter, bah, le flic, bah, de toute façon il force la voiture à s'arrêter et puis c'est tout. Donc ça pourrait résoudre beaucoup de problèmes et ça pourrait surtout rendre les... Enfin, tu vois, il y a des films qui pourraient plus être faits. Tu
Oui,
vas parler de Fast and
effectivement.
Furious, par exemple, tu vois, c'est mort
Il y a
maintenant.
des émissions de TF1 le vendredi soir qui sont basées sur ce genre de vidéos incroyables qui n'auraient plus
Et
lieu
ouais, donc
d'être.
ce serait une grosse perte quand même pour les poursuites en
Tout à
bagnole
fait.
qu'on aime bien, faut des fois avouer. Mais bon, oui, ça serait super pratique. Après, le problème, c'est que du coup, ça voudrait dire qu'il y a un passe-partout pour toutes les voitures. Et du coup, tu peux te demander,
Une
mais pourquoi est-ce qu'on
backdoor,
pourrait
quoi,
pas faire
quelque part.
ça? Comment?
Une backdoor, quelque part. Une backdoor
Exactement, oui,
réservée aux
exactement,
autorités.
c'est un petit peu ça. D'ailleurs, on peut se dire, bah, si tu fais ça pour les voitures,
Pourquoi tu ne
pourquoi
ferais
tu
pas
fais pas
ça
ça pour
pour
les
les téléphones?
téléphones? Voilà. Et donc, on retombe sur un débat, voilà, quoi, qui est évidemment assez épineux, du truc de la question, est-ce que on doit laisser les forces de l'ordre rentrer partout du moment que que t'es en infraction? Bah, c'est assez complexe comme question parce que bah, pour les téléphones, par exemple, c'est manifestement une question compliquée. Hein, du coup, si on a, tu vois, si les flics ont un mandat, par exemple, ils peuvent rentrer chez toi, ils peuvent pas rentrer dans ton téléphone, mais ils peuvent tenter de le forcer. La voiture, bah, est-ce que c'est pareil? Tu vois, ou est-ce que y a des considérations un petit peu supérieures? Je sais pas. C'est vrai que c'est une question qui est assez intéressante, je trouve.
Ben justement, en fait, dans la mesure où, alors pour les smartphones, on a déjà exprimé nos réflexions sur le sujet, à défaut d'avoir quelque chose qui soit partagé d'entre nous deux déjà, et puis peut-être même avec les auditeurs. Moi, je suis assez partisan, effectivement, du fait qu'il n'y ait pas de backdoor qui soit installé sur les téléphones. Enfin, d'ailleurs, toi aussi, hein, de toute façon, le but n'est pas de créer des backdoors, que ce soit dans les applications de messagerie, dans les téléphones, etc. Mais bizarrement, pour les voitures, s'agissant de quelque chose qui est peut-être potentiellement beaucoup plus facilement dommageable pour l'entourage de la personne que tu cibles, et s'agissant pas d'une quelque part d'une vie privée, mais d'une présence physique, j'étais en train de me dire dans mes réflexions que ça me gênait moins. Mais bon,
Ouais, ça peut sauver des vies, clairement.
voilà, c'est ce que je me
Ça peut
disais.
clairement oublier, enfin, ça peut de manière évidente sauver des vies. Si quelqu'un a un malaise au volant, bah, avec la télécommande, tu arrêtes sa voiture.
Ouais, c'est
Si
ça.
quelqu'un, justement, est un forcené qui ne veut pas s'arrêter, bah, tu le forces à s'arrêter, peut-être qu'il n'écrasera pas des gens au prochain carrefour. Donc, c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. Bon, moi, je pense que ça pourrait arriver assez facilement, en fait. Ça m'étonnerait pas que que dans 10 ans, s'il y a des voitures autonomes un petit peu partout, ou 15 ans, bah les flics aient la possibilité d'arrêter les voitures comme ça m'étonnerait pas, très honnêtement.
Ça me gênerait moins que les téléphones. Mais enfin bon. Et puis, tu voulais nous mentionner, alors bah, peut-être que c'est un peu plus visuel que radiophonique. Vous pourrez aller regarder dans les notes de l'émission. Mais il y a quelques images qui sont intéressantes, qui nous permettent justement de toucher du doigt et de voir ce que voit une Tesla, Guillaume.
Oui, bah non, mais comme tu dis, hein, c'est juste un lien dans les notes de l'émission. C'est un article où il y a une vidéo qui est assez longue, hein, puisque je crois qu'elle fait 17 minutes ou un truc comme ça,
Elle est
et vous
interminable, cette
voyez ce que
vidéo.
voit une Tesla. C'est une vidéo à 360 degrés, vous pouvez vous balader dans l'image, et donc vous voyez de ce que voit une Tesla. Donc une Tesla voit à 360 degrés, puis vous voyez, donc elle reconnaît la route, elle localise les véhicules, etc. Vous voyez, c'est assez rigolo, en fait, ça c'est vraiment la vision de Terminator, quoi, c'est très très marrant à voir.
Et elle voit même plutôt bien finalement. On s'imaginerait voir des paquets de pixels. Non, non, elle voit très 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 bien. Évidemment, c'est les caméras qui sont par-dessus. J'imagine que la machine en tant que telle ne regarde pas des images, mais analyse les données qui sont dedans, évidemment. On continue alors peut-être en s'éloignant un petit peu de la Chine, mais en restant dans les intelligences artificielles, parce qu'il y a un acteur que moi je ne soupçonnais pas être... Et puis finalement, quand on y réfléchit, c'est évident, un acteur aussi investi dans des sujets tels que l'intelligence artificielle, ben c'est Uber, tout simplement, et qui parvient à faire progresser des intelligences artificielles sur des trucs qui sont ben rigolos. Alors, on parle souvent de l'intelligence artificielle et des algorithmes qui permettent de nous faire évoluer à des jeux de société. On avait parlé des échecs, mais surtout du jeu de Go. Quelle est la nouvelle étape, Guillaume?
Ben oui, parce que c'est bébert, hein, c'est bébert. Bébert, c'est pas seulement des VTC,
Bébert, j'avais pas compris.
c'est bébert qui fait aussi, alors il fait donc des VTC, il va peut-être aussi devenir un géant de la trottinette en libre-service, hein, puisque tu as vu
Ouais.
qu'il sera apparemment en négociation avec Bird et Lime pour une possible acquisition. Ça se chiffre en milliards de dollars encore, ces histoires. Mais bon, bref, donc bébert finance aussi les recherches en IA, évidemment, puisqu'il est dans la course aux voitures autonomes, hein, tu t'en doutes qu'il est donc sur le fond de la recherche fondamentale comme Google et Facebook. Et comme eux, bah évidemment, les chercheurs ils utilisent aussi bah, des modèles plus simples pour commencer. Donc, ils utilisent des vieux jeux vidéo pour tester donc leurs nouveaux modèles. Et DeepMind avait démontré ses résultats très impressionnants hein, sur des vieux jeux Atari 2600. où en quelques heures, les IA devenaient meilleures que n'importe quel être humain. Ça, c'était clair, mais c'était pas tous les jeux. C'était principalement des jeux à scoring, des jeux où chaque action était clairement récompensée par un score supérieur, quoi. Donc, les IA savaient très vite si elles devaient persister dans une voie ou si elles devaient faire autre chose. Donc, ils faisaient du reinforcement learning et ça marchait très bien. Le problème, c'est que quand il n'y a pas de score, ou quand ton score n'est pas directement lié aux actions que tu fais, comme dans Pitfall par exemple, ou Montezuma Revenge, qui est donc une sorte de vieux jeu de plateforme, hein, bah, c'est beaucoup plus chaud. Est-ce qu'une action peut être positive, mais seulement à long terme? Donc la récompense va tarder à venir, et bah, globalement, les belles IA comprennent rien, quoi. Hein. Alors le problème, c'est que dans la vraie vie, bah, les robots sont plus souvent dans ce type de situation-là que dans un truc en scoring comme un Tetris, quoi. Donc, un certain degré d'exploration et donc de curiosité, en fait, est nécessaire. Et du coup, les chercheurs d'Uber ont justement essayé d'implémenter quelque chose qui y ressemble. Leur algo s'appelle Go Explore, d'ailleurs. Et Go Explore, c'est, il va explorer l'environnement, et bon, comme les autres, quoi. Hein, mais même si un endroit donne rien à un moment donné, l'algo va quand même y revenir plus tard pour s'assurer que rien de nouveau s'est passé. Donc, il a annoncé par communiqué de presse, mais l'article n'a pas encore été publié, lui non plus, comme quoi. Bon, il est aussi possible avec cet algo, justement, à un opérateur humain de donner des indices, des conseils, en quelque sorte, à l'algo. Et bien sûr, bah, ça peut l'aider beaucoup, et l'apprentissage devrait être largement plus rapide. Donc, au total, Go Explore marche bien, avec Montezuma Revenge et Pitfall. Donc, c'est des jeux qui sont des challenges pour les chercheurs, qui cherchent donc à atteindre les scores, hein, comme au bon vieux temps sur les bandes d'arcade, mais par algo interposé. Ouais, les chercheurs se battent un petit peu comme ça sur les jeux d'arcade, c'est marrant. Et donc le mois dernier, il y avait déjà eu une avancée sur le problème de Pitfall avec à Stanford, qui font aussi chauffer les jeux, et puis bon, apparemment, ouais, comme ça, c'est vrai que c'est un petit peu l'air d'une blague, mais c'est des recherches qui pourraient prochainement avoir un impact en robotique, tout simplement.
Donc, si je comprends bien, ce sont des algorithmes qui ont un petit peu plus de volonté que les précédents et qui, c'est pas parce qu'ils se disent, tiens, je fais telle action, ça me donne rien, qu'ils ne persistent pas, parce qu'ils se disent, bah, peut-être que finalement, je continue, ça me donne rien, ça me donne rien, ça me donne rien, mais peut-être qu'au bout d'un moment, ça va me donner quelque chose. Et à force d'exploration, bah, du coup, évidemment, ils sont plus performants à fonctionner comme ça, parce que sinon, les autres, se seraient arrêtés beaucoup plus tôt. Et si je comprends bien l'histoire des conseils, c'est simplement de dire que cette mécanique, avec quelques conseils par un opérateur qui lui dit, tiens, regarde, si tu fais ça, tu vas arriver à te débloquer de telle situation, et donc que l'algorithme est capable de comprendre là aussi qu'en faisant certaines actions qui lui paraissent pas immédiatement faire l'objet d'une rétribution, et bien il a peut-être quand même intérêt à la faire parce qu'il y a quelque chose à gagner, c'est ça?
Oui, c'est exactement ça, oui.
Très bien, c'est intéressant de voir comment ça évolue. Moi, j'aurais pensé naïvement que ça faisait déjà partie des algorithmes, le fait de persister comme ça sur des trucs qui ne sont pas source de gratification, mais comme quoi ça avance, c'est cool.
Le problème, c'est qu'il y a un temps fini, si tu veux.
Ah oui.
Idéalement, il pourrait persister sur tout, mais il faut qu'il fasse des choix.
Oui.
Et le choix, il est orienté par la récompense, par l'efficacité de ce qu'il fait. Il va tendance à avoir fait à faire plus ce qui lui paraît efficace. S'il ne sait pas comment évaluer l'efficacité de ce qu'il fait, mais il est tout paumé, tout
Ouais.
simplement.
Ouais. D'où l'adage, faire des choix, c'est renoncer. Et donc, voilà, il renonçait. On continue avec les intelligences artificielles, qui sont aussi, au-delà d'être ludiques, sont relativement créatifs. Peut-être qu'on va très bientôt avoir des artistes. On parlait de tous les métiers qui vont être bientôt remplacés par des algorithmes d'intelligence artificielle. Rassure-nous, ce n'est pas les peintres quand même qui vont être remplacés par des algorithmes demain, Guillaume.
Ben bien sûr, mais ça a déjà été fait. Tu te souviens le portrait de Edmond, je sais plus quoi, là, qui avait été acheté aux enchères, je sais plus
Ah
combien
oui,
de milliers de dollars,
très
alors que
très
c'est
moche, non?
la création d'un gan.
Ouais.
Pas très très joli, mais bon, après, chacun ses goûts. Mais bon, là, c'est vrai que c'était une impression, hein, tout simplement. Le gan avait créé une image. On pourrait aller un petit peu plus loin, puisqu'il y a une machine, bah, apparemment, c'est le machine learning sert vraiment à tout, hein, puisqu'une équipe du MIT a créé Repaint, qui est un algorithme qui est couplé à une imprimante 3D, et ce truc reproduit fidèlement une image en superposant des couches de peinture, jusqu'à 10 peintures différentes. Sur le support, donc, bah, le support fait actuellement la taille d'une carte postale à peu près, donc c'est assez petit. Et donc l'avantage par rapport à une imprimante normale, bah, mis à part une meilleure fidélité aux couleurs d'origine, il n'y en a pas vraiment. Alors, bien sûr, il n'est pas impossible qu'une imprimante 3D puisse, dans le futur, utiliser de la peinture à l'huile et rendre les reliefs d'une toile. Et donc, ça veut dire, tu pourras avoir une sorte de faussaire robot. Ça va être beaucoup plus intéressant déjà.
C'est impressionnant d'arriver à informatiser, à robotiser ce genre de démarche qui paraît très très subtilement dosée par l'appréciation humaine. Donc c'est là aussi, ça évolue énormément. Les intelligences artificielles qui permettent aussi, du côté de chez Nvidia, de faire, grosso modo, allez, je résume, mais tu vas l'expliquer bien mieux que moi avec beaucoup moins de bêtises, des décors et des environnements de jeu basés sur des vidéos existantes bah de lieux, typiquement. De quoi s'agit-il là?
Mais Nvidia, ils n'arrêtent pas de s'amuser, hein. C'est normal, c'est une boîte qui fait des trucs pour les jeux vidéo. Enfin, plus maintenant, plus vraiment, hein. C'est vraiment beaucoup plus large que ça. Bon, toujours est-il qu'ils ont réussi à rendre une scène 3D, hein, comme on pourrait avoir dans un GTA par exemple. Donc c'est une rue d'une ville avec des voitures. Sauf qu'au lieu d'utiliser un moteur 3D classique, hein, ils ont utilisé des algorithmes de deep learning. Alors ce qu'on voit, c'est pas, enfin ce qu'on voit dans la vidéo, que vous verrez dans les notes de lien. Dans le lien des notes de l'émission, c'est un rendu qui est décrit par des textures, mais qui ne sont pas faites par des artistes, mais qui sont imaginées par un gros réseau de neurones. Alors, il y a plusieurs étapes quand même. Hein. Au départ, on prend des heures et des heures de vidéos de conduite.
Ce qui doit être inintéressant. Il ne faut pas s'endormir avec sa Tesla, quoi.
C'est extrêmement inintéressant, effectivement. Bah, d'ailleurs, ils font exactement ça. Ils prennent les mêmes vidéos, les mêmes sets de vidéos qu'ils utilisent pour entraîner les algorithmes de véhicules autonomes. Parce qu'il y a des dizaines et des dizaines d'heures de vidéos sur lesquelles tu peux mettre tes algos pour, alors déjà, pour faire quoi? Ben exactement ce qu'ils font, c'est-à-dire segmenter la scène. C'est-à-dire reconnaître qu'est-ce qui est la route, qu'est-ce qui est des arbres, qu'est-ce qui est des gens, qu'est-ce qui est des voitures, qu'est-ce qui est des bâtiments, etc. Et du coup, une fois cette segmentation faite, déjà la voiture a une meilleure image de ce que, enfin une meilleure conception, quoi, si tu veux, de son environnement. Et là, ils font exactement pareil. Du coup, ils font regarder, enfin après, ils font donc ces vidéos qui sont des vidéos en quelque sorte taguées, tu vois, avec des informations supplémentaires, ils les passent dans un réseau de neurones qui va lui les regarder, comme ça, peinard, et qui, il va voir à travers, donc dans ces vidéos, il va voir des routes qui sont taguées comme routes. Voilà, ça, c'est des routes. Bon. Après, des arbres, ça, c'est des arbres. Tu vois, des piétons, ça, c'est des piétons. Et donc, il va commencer à se faire une idée de la tronche qu'a un arbre, un piéton, une voiture, etc. Et une fois qu'il est bien entraîné, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un squelette 3D de l'environnement qu'on veut. Donc, globalement, on crée un truc plat, une route, une silhouette d'arbre, une silhouette de voiture, très sommaire. Ça, on le fait avec un truc normal, hein, comme Unreal Engine. Et puis ensuite, on les flague, donc comme ça. Et puis ensuite, on demande au GAN, on demande à un GAN, donc un Generative Adversary Network, de générer donc une rue avec ce qu'il a vu de qu'est-ce que c'est une route, qu'est-ce que c'est une rue, qu'est-ce que c'est un mec, qu'est-ce que c'est une voiture. Donc on lui présente ce qu'on veut comme, tu vois, comme silhouette, et lui après, il va mettre des textures dessus, il va imaginer les textures dessus. Bon, je sais pas si tu as vu la vidéo, bon, c'est pas magnifique, non. Les raccords sont pas incroyables, le rendu est un petit peu bizarre quelque part.
Il y a un côté
mais
faussement 3D, quoi. T'as l'impression que c'est de la 3D, enfin semi-réel, mais un peu bizarre effectivement dans le traitement. On a l'impression que c'est un filtre vidéo bizarre.
Exactement, c'est un peu bizarre, mais c'est quand même reconnaissable, tu vois. Alors, pour avoir ce rendu bizarre, il faut quand même une Titan 5 pour faire tourner une bête simulation de conduite, hein. Et en plus, ça tourne à 25 images par seconde. Mais c'est quand même très fort parce que personne n'a créé les textures de cette scène, quoi, de ce jeu vidéo, tu vois. Alors, il faut se dire aussi que c'est quand même très fort parce que c'est justement une vidéo que produit donc un ensemble d'images, et donc ça veut dire que les textures doivent être cohérentes d'une image à l'autre. Or, un réseau neurone, quand tu demandes d'imaginer une voiture, bah, il t'en prend une, et puis dans l'image d'après, il t'en prend une autre. Donc, tu vois, il s'en fout. Normalement, il s'en fout. Donc il a fallu qu'il résolve ce problème en implémentant une mémoire à court terme du réseau, qui tient compte de ce qu'il a déjà produit avant pour, si tu veux, modifier correctement.
Pas faire 50 fois la même chose, quoi.
Oui, c'est-à-dire non seulement il doit garder la même texture, mais surtout il doit la faire évoluer selon le point de vue. Et donc ça veut dire que globalement, au lieu de réimaginer une nouvelle voiture, il va réimaginer la même voiture, mais sous un angle différent. Et ça, c'est quand même assez fort, quoi. Donc tout ça, bah, c'est quand même très préliminaire. On est loin d'une utilisation massive dans les jeux vidéo. C'est un proto, tout simplement. Mais c'est pas impossible que des utilisations limitées à certains éléments, tu vois, par exemple, un petit peu comme le ray tracing serait dans les jeux modernes, utilisé mais uniquement pour certains trucs, c'est pas quand même possible que ça arrive d'ici quelques années. Et puis bon, déjà, je sais pas si t'as vu, mais à la fin de la vidéo, on peut faire des deepfakes assez rigolos, hein, puisqu'il y a un des chercheurs qui s'est amusé à faire danser son collègue le Gangnam Style. Ouais, alors qu'évidemment, il l'a jamais fait, hein, il a jamais dansé Gangnam Style, sauf son collègue. Mais bon, il a bien pris. Donc voilà, cet algo était même assez prometteur.
Tant mieux, tant mieux. La finalité là-dedans, l'argument, il est de gagner du temps typiquement dans la création d'un environnement pour des jeux vidéo ou ça n'a rien à voir tout simplement. La finalité de
bah,
cet
c'est
exercice.
une... La finalité de cet exercice, c'est probablement d'explorer des alternatives au rendu 3D traditionnel.
Ouais.
C'est que le rendu 3D, il est totalement descriptif. On doit absolument tout faire soi-même, quoi. Tu dois modéliser l'objet en 3D le mieux possible. Après, tu dois imaginer les textures, puis tu dois imaginer ben, les multiples textures. Hein. Et puis, voilà, tu dois faire les shaders, c'est-à-dire ben, voilà, déterminer comment la lumière réagit à un tel point, etc. Tu dois tout faire toi-même. Évidemment, ça prend énormément de temps et de ressources. Si tu peux demander à un réseau de neurones, ben, vas-y, tiens, ben, pour ce jeu vidéo, j'ai besoin d'une forêt. Et le truc, il te fait une forêt, pouf, photoréaliste. Ben voilà, ben
Et puis il
c'est
y a
beaucoup de temps
l'ajuster si tu
gagné.
as besoin.
Exactement, tu peux lui dire, ah ben je préférais que ce soit une forêt boréale, ben, et boum, ouais, tu ferais une forêt boréale, et puis basta quoi. Ça serait un temps incroyable, un gain de temps absolument incroyable, alors même si on n'en est, si on n'en est pas encore là, c'est l'objectif, je suppose.
Mais du coup, pas que les jeux vidéo, j'imagine que les films et les séries à gros budget.
Absolument tout, bien sûr.
Enfin,
Partout où il y a
ouais.
du rendu 3D impliqué, oui.
On parle de Game of Thrones, on a tous vu, je pense, ces images où on voit comment sont générés les décors par informatique et où les acteurs sont devant. Ce n'est pas le cas que dans Game of Thrones, hein, c'est là où les vidéos, moi, m'ont le plus marqué, mais c'est le cas de beaucoup de tournages et j'imagine qu'effectivement, ça ferait gagner du temps. Encore faut-il que le rendu ne nécessite pas beaucoup d'ajustements, parce que si tu passes plus de temps à corriger pour avoir vraiment ce que tu veux que de le faire toi-même, du coup, c'est un peu embêtant. Mais bon, j'ai compris la démarche en tout cas. Et puis, un dernier mot pour les intelligences artificielles. Je pense que avant d'attraper des voitures autonomes de gangsters qui s'enfuiraient, le mieux ce serait même d'identifier avant même que les gangsters ne commettent leurs méfaits. Et ça, évidemment, il y a le film que tout le monde peut-être a vu ou que tout le monde aura à l'esprit, qui est Minority Report, où justement le principe de ce film, c'est justement d'anticiper ben, les crimes. Sauf que, c'est la minute, encore une fois, Black Mirror, comme il y en a tant dans Tech Café, où la réalité rejoint peut-être petit à petit la fiction, et là c'est en Angleterre que ça se passe.
Ben ouais, les Anglais veulent utiliser des algorithmes pour prédire les crimes et intervenir avant. Alors qu'on se rassure, il n'y a pas question d'arrêter les gens avant qu'ils aient fait quoi que ce soit, mais c'est plutôt de, ben justement, de flaguer les individus à risque et de proposer des accompagnements spécifiques pour éviter justement que le pire n'arrive. Le système s'appellera NDAS, c'est-à-dire National Data Analytics Solution. Ce truc va se goinfrer de stats, en gros, et appliquer des modèles pour donner une probabilité qu'un individu commette un crime. Donc il y a déjà un bon gros terroquet de données de fichiers de police locale qui a déjà été digéré. Ça correspond quand même à 5 millions de personnes identifiables. Donc un prototype est attendu fin mars 2019. Si c'est concluant, bah, à terme, toutes les polices d'Angleterre pourraient l'utiliser ce système. Hein. Et alors le truc, c'est qu'aussi, selon Ian Donnelly, qui est le policier en charge du projet, ben, le système est aussi là pour compenser les réductions de moyens et d'effectifs dans la police, pour utiliser du coup, et plus efficacement les forces qui restent en quelque sorte. C'est un petit peu bon, presque un cache-misère. Et comme toujours, les associations pointent les problématiques, hein, comme évidemment, donc, premièrement, les biais des algos en premier lieu, et naturellement le fait que l'algo se base sur des crimes passés, ce qui fait qu'il va forcément se concentrer sur des zones qui sont déjà connues et donc ben, risquer de taper de manière disproportionnée sur un petit peu toujours les mêmes. Alors, il y a aussi le syndrome de prophétie autoréalisatrice, hein, c'est-à-dire, admettons que, on ait une forte probabilité qu'il se passe quelque chose, on intervient, mais si on n'était pas intervenu, qu'est-ce qui se serait passé?
Oui.
Tu vois? Et quand on intervient, en quoi on influence le futur, en quelque sorte? Donc, c'est toujours un petit peu compliqué, quoi. Alors, c'est pas le premier système de ce type, hein, cela dit, hein. On a déjà parlé de police prédictive, déjà, et c'est même une grosse tendance. On se souvient de Predpol, par exemple, hein, qui prévoyait les zones chaudes dans une ville. Il y a eu des essais dans diverses villes américaines, et puis bien sûr, bah, en Chine.
Évidemment. C'est tout à fait à propos et on aura bouclé notre sujet comme ça. Cela dit, moi je pense qu'il faudrait des algorithmes pour se demander s'il faudrait des forces de police supplémentaires dans les grandes villes. Les samedis à venir, il paraît qu'on parle de gilets jaunes en ce moment. Je ne sais pas ce que c'est que cette histoire. Il faudrait prédire quand même leurs interventions. Trêve de cavalcade, on enchaîne avec une autre rubrique qui, bah, par certains aspects, n'a pas grand-chose à voir, quoique, avec la conférence Reinvent 2018 d'Amazon. C'est la grand-messe annuelle d'Amazon Web Services. On le dit assez souvent dans l'univers des news tech, mais Amazon, c'est un acteur particulièrement important dans le domaine de l'hébergement, du cloud. Donc là, on parle de grosses volumétries et on parle de grosses quantités de données qui sont mises à disposition à des échelles qui dépassent un petit peu la façon dont on a l'habitude de gérer et de concevoir les ordinateurs personnels. Allez, petite revue de cette conférence et de tout ce qui tourne autour d'Amazon dans le cadre de cette conférence, Guillaume.
Ben oui, Amazon se réinvente. Là, c'était donc du 26 au 30 novembre à Las Vegas. Et alors, on va pas se mentir, c'était pas vraiment une conférence à destination des consommateurs.
C'était pas sexy pour les consommateurs.
Non, bien sûr, bien sûr. Quand on pense à Amazon, on pense toujours e-commerce, évidemment. Or, ben, c'est pas le cœur de métier d'Amazon, en fait. Amazon, il gagne beaucoup plus d'argent avec AWS, donc c'est fameux Amazon Web Services, qu'avec sa boutique géante. AWS, c'est, je crois, quelque chose de comme 12 milliards de chiffre d'affaires par an, chaque année. Hein. Donc, c'est le plus gros acteur, le plus gros hébergeur cloud au monde, de loin, en fait. Largement devant Microsoft et Google actuellement. Et donc, bah, forcément, bah, quand il annonce des trucs, bah, ça pèse, quoi. Alors, pour un petit peu boucler sur, enfin, pour se raccorder un petit peu sur la truc d'avant, on peut parler de ce qu'Amazon a annoncé en intelligence artificielle, parce que Amazon, c'est une foule d'outils aussi pour le deep learning. Alors, on connaît bien sûr le célèbre Recognition, pour la reconnaissance faciale, dont on a déjà parlé, qui a été aussitôt décrié. Mais bon, il y en a plein d'autres. Il y a Transcribe, Translate, SageMaker. Voilà, il y en a plein aussi de petits nouveaux comme Forecast, par exemple, pour faire des séries temporelles. Textract, pour extraire du texte. Personalize, même, pour utiliser les mêmes algorithmes de recommandation que sur la boutique Amazon. Et tout ça, bah, c'est... Ce sont des services que tu peux, disons, directement louer, on va dire presque à un clic, sur AWS, donc c'est quand même vraiment très pratique. Et donc, du coup, Amazon annonce une nouvelle puce qui sera dédiée à l'inférence, qui s'appelle Inferentia, et aussi de nouveaux tarifs pour utiliser des GPU sur ces machines virtuelles et pour donc faire de l'intelligence artificielle. Le fait qu'il ait une puce dédiée à l'inférence, ça rejoint aussi tout ce qu'on a dit sur Facebook, Google et compagnie, hein, qui ont aussi des puces spécifiques pour l'intelligence artificielle, ou Facebook bientôt en tout cas. Et il y a plus amusant, Amazon vend une voiture radiocommandée qui s'appelle Deep Racer, elle est à l'échelle 1/18e, et globalement c'est un PC sur roue, il y a 4 Go de RAM, un petit CPU Atom, des caméras, des accéléromètres, le tout est sur Ubuntu et sur RoboOS. Et le but, bah, c'est d'en faire des petites voitures autonomes qui, pourquoi pas, feront après des petits robots rallye que tu pourras faire avec tes amis, et ça c'est assez rigolo. Alors ça donne $400 quand même le joujou, mais surtout ça donne accès à toute la plateforme d'apprentissage IA d'Amazon, qui propose d'ailleurs RoboMaker, qui est une simulation, c'est une sorte de matrix pour voiture autonome, pour petite voiture autonome, c'est une simulation tout simplement pour tester ces modèles avant de les appliquer au petit bolide et de partir dans la nature. Bah, c'est assez marrant. Tu en veux une pour Noël, toi, de...
Bien sûr que j'en veux une. Je suis pas sûr que ce serait beaucoup plus pratique que Mario télécommandé que mon fils a demandé, mais ça paraît...
Ça ferait des super Mario Kart.
Ça ferait vraiment des super Mario Kart, effectivement, à programmer derrière. Intéressant. Très bien. Amazon, donc tu le disais...
Amazon Go, ouais.
On parle souvent d'Amazon comme étant le commerce en ligne et pas que en ligne, du coup. Et du coup, tu as des petites news sur Amazon Go.
Oui, bah c'est pour continuer, pour montrer à quel point l'intelligence artificielle fera aussi partie du cœur de métier d'Amazon. On sait qu'Amazon Go, ce sont des magasins qui sont sans caissière, et du coup, forcément, il y a énormément de technologies dans chaque Amazon Go. Ce sont des petits magasins à l'heure actuelle, où vous êtes tracé par des centaines de caméras, qui donc vous reconnaissent ce que vous prenez, etc. Donc c'est vraiment extrêmement sophistiqué, quoi. Et justement, au début, forcément, Amazon s'est contenté de surfaces assez petites. Donc, globalement, il y a une vingtaine de personnes dans un Amazon Go. Après, le système risque de paniquer, quoi. Ça n'empêche pas Amazon d'envisager d'ouvrir plus de 3000 magasins jusqu'en 2021, au point que Walmart, d'ailleurs, doit s'adapter et faire des recharges dans le même sens. Mais surtout, ce qu'on sait depuis quelques jours, c'est que Amazon Go... Ben, ça pourrait devenir des plus gros magasins, en fait, tout simplement. Des magasins qui pourraient être de la taille d'une supérette, avec des rayonnages plus hauts et beaucoup plus de personnes, ce qui demande une puissance de calcul et d'analyse et qui est encore très largement supérieure. Et donc c'est assez impressionnant de voir à quel point Amazon monte en tour vite dans ce secteur, quoi.
Et puis, moi, je pense aussi à la manière dont ça pourrait s'étendre, puisqu'on parle là de commerce en ligne, donc ça paraît évident, mais j'imagine très bien des environnements où le service est peut-être moins diversifié qu'une foultitude de produits. Typiquement, j'imagine que L'objet, qu'il soit smartphone d'ailleurs, ou qu'il soit physique pour s'identifier, pour passer des transports en commun, pour monter dans le bus, dans le métro, etc. Je pense que c'est des choses qui vont effectivement peut-être à terme disparaître avec ce genre de technologie, puisque on va être à même de pouvoir identifier les gens et les suivre dans leur parcours. Je ne sais pas si on doit s'en réjouir, mais en tout cas, la technologie est belle. Un aspect qu'on n'a vraiment pas l'habitude hein, d'aborder, au moins dans Tech Café, alors je ne sais pas s'il y a d'autres podcasts qui sont plus sur ces aspects-là de la tech, mais nous, enfin, je ne crois pas qu'on en ait déjà parlé, mais c'est en l'occurrence, c'est le prix des glaciers jette un froid. J'aime bien ton petit jeu de mots, Guillaume. Qu'est-ce que c'est que les glaciers chez Amazon?
Bah écoute, Amazon donc fournit des machines virtuelles, donc des serveurs que tu peux louer comme ça dans le cloud. Il fournit aussi de l'espace de stockage et il fournit de l'espace de stockage froid. Donc il fournit, alors par exemple, ces serveurs de stockage. Alors, tu sais que tu peux louer une instance comme les T2 Micro par exemple. Hein, tu payes donc ce que tu utilises globalement. Et globalement, c'est vrai que tu peux aussi avoir recours à de l'espace si tu as besoin d'espace. Alors, il y a des gros acteurs, c'est vrai qu'on n'est peut-être pas conscient, mais il y a de très très gros acteurs de la tech qui utilisent le stockage massif et les serveurs massifs d'Amazon, comme par exemple Netflix, Airbnb, Autodesk, il y a Yelp, il y a Zynga, Hertz, il y a Unilever aussi, Kellogg's, et même la NASA qui utilise les services de la AWS, quoi. Donc, Amazon est un poids lourd du cloud, donc hein, je le redis. Et donc quand il fait des annonces de services, ben, ça touche beaucoup de monde, et aussi les concurrents, comme Microsoft, Google. Alors, mais pas seulement, on va le voir. Alors, Amazon, donc les glaciers, c'est quoi? Un glacier, c'est comme ça que s'appelle l'offre de stockage froid d'Amazon. Alors, évidemment, c'était facile, un glacier. Alors, le stockage froid, qu'est-ce que c'est? C'est fait pour les données qui sont archivées, auxquelles on n'a pas accédé, enfin, auxquelles on n'accède que très rarement. Donc, il faut penser backup, quoi. Hein, voilà, c'est des sauvegardes qui sont faites, qui sont stockées quelque part. Et évidemment, vous pouvez y accéder. Mais vous pouvez y accéder dans un délai qui varie de quelques minutes à quelques heures, éventuellement quelques jours dans certains cas, mais là, c'est
Tu
plutôt quelques
parles bien
heures.
du niveau de réactivité, hein. C'est pas la durée, puisque celle-ci, elle est potentiellement, enfin, on va le voir pas si illimitée que ça, mais relativement longue. Mais là, on parle de la durée, enfin, de la réactivité à laquelle on peut récupérer des données qui ont été sauvegardées, hein.
Oui, exactement. C'est-à-dire, si vous. Alors là, ben justement, en parlant des prix. Donc, la grosse annonce, c'est que, évidemment, Glacier existait déjà. Donc, il y avait déjà du stockage froid chez Amazon. Là, ce qui est assez hallucinant, c'est que les prix sont massacrés. C'est-à-dire qu'ils ont été divisés par 4 hein, par rapport au précédent truc, quoi, par rapport au précédent tarif. On passe à 1 $ par téraoctet et par mois. Et donc, avec ça, ben, on a vraiment quelque chose qui est extrêmement compétitif, qui est même plus compétitif, qui est pratiquement aussi compétitif que la bande. Alors, je disais effectivement que vous n'avez pas accès à vos données tout de suite. En l'occurrence, donc, c'est 5 minutes. Si vous voulez attendre que 5 minutes, ça vous coûtera 3 cents par gigaoctet pour récupérer les données, et 1 cent pour un délai qui est un délai normal, qui est entre 3 et 5 heures. Donc, tu vois, ça prend quand même beaucoup de temps. Alors, parce que tout ça, pourquoi? Parce que les données ne sont pas physiquement sur les disques durs des serveurs, en fait. Hein. Elles sont accessibles, mais elles ont été déplacées sur d'autres supports.
Ça veut dire qu'il y a un petit monsieur avec son chariot et sa brouette qui va chercher tes données?
Presque, c'est un petit robot, en fait. Le truc, c'est que là, on entre dans le monde de l'archivage. Et le monde de l'archivage, c'est un monde qui est totalement différent du monde du serveur standard, où on veut des disques durs ultra rapides, ultra réactifs, toujours actifs, toujours disponibles. En fait, là, on va plutôt avoir des fermes de disques durs super lents, qui sont ou carrément des bandes magnétiques.
Mais c'est vrai que c'est
Parce...
toujours fou de s'imaginer qu'aujourd'hui la bande magnétique est utilisée encore massivement par l'industrie, pas là où on le pense évidemment,
Ben oui.
mais.
Ben oui, non, mais alors les bandes magnétiques hein, que vous utilisiez sur votre Amstrad 464, ben, elles existent toujours, en fait, elles sont activement utilisées. Effectivement, il y a HP, IBM et Oracle qui supportent parfaitement le stockage sur bande. Et il y a deux acteurs majeurs qui sont Sony et Fujifilm qui produisent des millions de grosses cassettes à bande. Alors une bande en soi, une grosse cassette, elle stocke pas énormément d'informations puisqu'on est de l'ordre de quelques téraoctets. On est bon, 15 téraoctets pour une bande moderne. Mais le truc, c'est qu'elles sont peu chères en comparaison des disques durs. Bien stockées, ben, elles peuvent durer une bonne trentaine d'années. Et puis surtout, les cassettes sont amovibles. On peut les stocker offline, c'est-à-dire dans des grosses bibliothèques qui peuvent compter des centaines de milliers de bandes. Hein. Iron Mountain, qui gère 210 entrepôts, et quelques mines, d'ailleurs, dans lesquelles il entrepose ses trucs, totalisent 85 millions de bandes. Et ces bandes sont complètement inertes. Lorsqu'on a besoin des données, ben, il y a un bras robot Il va chercher la bande dans la bibliothèque, qu'il insère dans une baie de lecteur à la demande, tout simplement. Alors, il y a TDK qui était dans le business aussi d'ailleurs, mais il a jeté l'éponge. Et aujourd'hui, bah, il n'y a plus que Sony et Fuji. Mais bon, évidemment, ils sont seuls, mais ils considèrent quand même que chacun, il y a quand même un acteur de trop, quoi. Et donc, ils se livrent une guéguerre sans merci pour torpiller l'autre. Enfin, bon, bref. Mais bon, la concentration des fournisseurs inquiète un petit peu les professionnels du secteur d'ailleurs, hein. Bon, la recherche continue aussi, puisque Sony, en 2017, a annoncé une bande d'une capacité de 330 téraoctets, d'ailleurs. Bon. Globalement, les bandes sont utilisées partout dans le monde, par tout le monde. Google, par exemple, hein, qui fait des backups réguliers de ses données, il est fait sur bande. La plupart des acteurs du cloud font pareil, hein. Il faut dire que les quantités de données qui transitent sur les réseaux sont inimaginables, hein. Il y a l'IDC, donc c'est l'International Data Corporation, qui s'amusait à quantifier la datasphère. C'est la quantité de données qui a été créée, capturée et ou répliquée dans le monde. Et en 2017, c'était, alors vas-y, c'était 23 zettaoctets.
C'est même plus ce que c'est à ce stade.
Alors, c'est 23 milliards de téraoctets.
Ma bonne dame, ça en fait un sacré NAS, hein, pour
Ouais,
stocker les films.
et c'est. Voilà, ça. Là, il en faut des NAS, hein. Il en faut des Freebox. Mais bon, en 2025, ils ont prévu que ça monterait à 175 zettaoctets. Donc 175 milliards de téraoctets. Et le tiers sera généré en temps réel, en plus, par les objets connectés,
Donc
etc.
là, soyons clairs, c'est la somme de données informatisées de la connaissance humaine qui est backupée, hein, à un instant donné.
Les zettaoctets?
Ouais.
Non, non, pas forcément. C'est les données qui sont créées, capturées ou répliquées en un an.
Ah oui, en un an, d'accord, oui.
Voilà, cette année a été créée, capturée ou répliquée 23 zettaoctets de données. Après, des millions de téraoctets, évidemment, il en passe hein, dans les bandes de Google, Amazon et compagnie, il en passe aussi énormément, bien sûr. Et du coup, là, c'est vrai, bon, hein, du coup, on revient à Amazon, hein, donc il a un stockage qui est peu cher, il offre un stockage qui est peu cher, et qui est d'une fiabilité absolue, hein, puisqu'il annonce 99,99999999. Or, il y a 13,9 en fait, hein. Et c'est complètement chiffré en plus. Alors 13,9, ça veut dire que virtuellement, il n'y a pas d'erreur, quoi. Alors, c'est un gros coup, parce que bah, le prix au téra de la bande magnétique, justement, est autour des 2 dollars. Et c'est à se demander comment fait Amazon. Et ce qui est marrant, c'est que c'est un secret, en fait. Amazon ne révèle pas la technologie qu'il utilise. Donc c'est assez marrant, j'ai trouvé que des spéculations. Et bon, d'après les fuites, ça serait des composants d'usage courant et assez peu cher. Alors du coup, quoi?
Des cassettes
C'est
audio
vraiment.
de notre prime jeunesse, ça en ferait
Mais va
beaucoup.
savoir, tu sais qu'on a pensé à des disques Blu-ray,
Ah.
des Blu-ray multicouches. Un Blu-ray multicouche, ça stocke jusqu'à 128 Go maximum par disque.
Ouais.
C'est pas cher et surtout c'est très compact, donc c'est pas forcément une idée aussi débile. Évidemment, on a pensé à des bandes, mais bon, c'est pas l'hypothèse la plus populaire. Et il y a une hypothèse qui est plausible, c'est que ça pourrait être des baies de disques durs customisés, voire des disques durs de récup d'ailleurs, hein, des disques durs de serveurs qui ont fait leur temps, et bon, bah, au lieu de continuer à les exploiter, on les met dans des. Globalement, on les remplit, on les déconnecte, on les stocke quelque part, quoi, un
Attends,
petit peu comme des bandes,
tu me
une
laisses
sorte de solution
imaginer que dans
hybride.
la tech, il y aurait des acteurs qui seraient suffisamment intelligents pour penser au recyclage de ces composants. Bon, j'ose pas y croire. Enfin, c'est pas possible.
Je sais pas, je sais pas. Écoute, l'hypothèse la plus en vogue, c'est que ce serait des grosses fermes, voire des bibliothèques en fait de disques durs peu chers, qui seraient donc bah, branchés à la demande, tout simplement, ce qui expliquerait le délai, qui n'est pas énorme, mais quand même pas nul, quoi, pour l'accès aux données. Voilà, c'est assez rigolo que ce soit encore un secret, le glacier.
C'est beau, ça donne envie de percer les secrets, ça donne envie d'aller s'infiltrer dans les centres de données. À mon avis, ça doit être bien surveillé, tiens, avec des intelligences artificielles qui surveillent avec les caméras autour. Je pense que ça doit être bien surveillé. Bon, Amazon Web Services, c'est pas que du stockage qui soit froid ou chaud, accessible, dynamique, je sais pas comment dire, mais il n'y a pas que du stockage, il y a aussi des machines virtuelles, et là, il y a des évolutions sur les machines virtuelles qui sont mises à disposition par AWS, Guillaume.
Mais il y a une autre grosse nouvelle, hein, c'est qu'Amazon commence lui aussi à utiliser ses propres puces, comme Apple. Google aussi utilise ses propres puces pour l'intelligence artificielle, Facebook bientôt. Et bien Amazon aussi cherche apparemment à acquérir plus d'autonomie technologique, à réduire sa dépendance à Intel, autant qu'à satisfaire d'ailleurs au mieux ses besoins spécifiques. Hein. Et du coup, ben, la machine virtuelle la moins chère que tu peux louer sur AWS, ça s'appelle la A1, et ça tourne sur un processeur maison qui s'appelle le Graviton, c'est rigolo. Et c'est un processeur ARM 64 bits, donc qui est bah, proche d'un cœur de smartphone en fait, hein. Même plus proche, c'est même très proche, puisque ce sera un Cortex A72 de 2015, mais avec 16 cœurs, et à 2,3 GHz, et bon, plein de petites instructions et tech utiles pour les serveurs quand même, donc assez customisé. Et du coup, la A1 Medium coûte 0,025 $, c'est-à-dire un petit peu plus de 2 cents de l'heure à la demande avec 1 cœur et 2 gigas de RAM. Si tu veux 16 cœurs et 32 gigas, ça coûtera 0,4 $ de l'heure. C'est pas très cher puisque c'est quand même presque deux fois moins que la contrepartie chez Intel. Alors, on ne sait pas beaucoup plus de choses sur ces Graviton, mais bon, il est probable que ce soit à la fois le résultat de la collaboration assez infructueuse avec AMD et du rachat d'Annapurna Labs. C'est dommage pour AMD, hein, puisque jusqu'en 2015, il a travaillé avec Amazon pour développer un CPU ARM pour serveur. Et finalement, Amazon a claqué la porte parce qu'il n'était pas satisfait des performances. Du coup, AMD a continué tout seul. Et il a sorti l'Opteron A1100, le premier CPU ARM pour serveur. CPU ARM AMD, pardon, pour serveur. C'est un truc qui est sorti dans l'indifférence générale, d'ailleurs, et qui est aujourd'hui probablement enterré dans un gros trou dans le désert. Avec les cartouches d'IT, tu sais, parce que bon, évidemment, maintenant AMD promeut ses Ryzen et ses EPYC, il en a plus rien à foutre de ce pauvre petit CPU, mais bon, c'est pas grave. Voilà, de son côté, Amazon a racheté Annapurna, du coup, qui lui était un designer des systèmes sur puce, hein, et il leur a donné les moyens justement d'avoir leur propre puce pour les réseaux et les stockages, donc des microcontrôleurs un petit peu, customisés, et maintenant, bah, du coup, leur propre entrée de gamme serveur. C'est une entrée de gamme qui est pas chère, qui est clairement pas super puissante non plus, hein, faut pas se mentir, mais ça peut suffire pour des serveurs légers, donc il faudra du coup soit utiliser des langages de script, soit tout recompiler pour la nouvelle architecture, puisque c'est pas, évidemment c'est pas compatible, les binaires ne sont pas compatibles avec ces serveurs-là. Mais bon, Amazon offre toute une suite logicielle qui va bien, évidemment, il parie, bah, bien sûr, et puis bon, il parie sur les bas prix, pour non seulement rentabiliser les serveurs eux-mêmes, mais aussi probablement pour démocratiser carrément cette nouvelle architecture dans le monde du serveur, parce qu'elle est encore exceptionnelle. Et du coup, si ça prend, bah c'est un coup qui est porté directement dans la face d'Intel. C'est quand même assez significatif.
Une dépendance face à Intel qui s'accentue, et il y a une autre dépendance qui va s'accentuer, a priori une direction assez forte, c'est la dépendance, ou en tout cas les usages avec Oracle en matière de gestion de base de données côté
Oui,
Amazon Web
enfin, ça
Services.
s'accentue pas, ça s'atténue, tu veux dire,
Oui,
tu
ça
veux dire
s'atténue.
s'atténue. Oui, parce qu'effectivement, donc une dépendance qui s'atténue avec Intel et autre gros mastodonte dont sont dépendants beaucoup d'acteurs de la tech, c'est Oracle, hein, qui gère actuellement les plus grosses bases de données de ces géants. Et donc, c'est vrai que le deuxième jour de Amazon reInvent, il y a Werner Vogels, qui est responsable technique chez Amazon, hein, qui s'est fait plaisir. Voilà. Il a dit lui-même, hein, que c'était son meilleur jour chez Amazon ever. Parce que
J'adore.
Ce jour-là,
C'est vrai, hein,
il a
ce que tu
pourri
cites, c'est véridique.
Oracle.
Hein, c'est pas...
C'est véridique. Non, mais c'est véridique. C'est le jour où il a pourri Oracle et ça soulage,
Il
apparemment.
les
Tu
aimait
vois.
pas, hein. Je sais pas ce qu'ils avaient fait contre lui, enfin.
Il en avait gros sur la patate, en
C'est
tout cas.
clair.
Il a dit qu'Oracle était resté bloqué dans les années 90 et que bon, maintenant ça commençait à bien faire, quoi. Et c'est vrai qu'Amazon, depuis quelques années, a développé ses propres logiciels de base de données pour le cloud, spécifiques à ses besoins et au cloud, justement, et ses propres logiciels de logistique aussi. Et donc, ils annoncent pas tout simplement que dès 2019, voilà, Oracle pourra aller remettre sa petite culotte et aller se faire voir ailleurs. Et voilà, donc c'est effectivement, Larry va pas être content.
J'imagine, c'est peut-être pas si facile que ça, parce que, pardon, j'imagine que Oracle a énormément de brevets en matière de gestion de base de données. Ça doit peut-être pas être simple d'arriver à surfer sans bouffer un certain nombre de brevets, non? Je me trompe?
Écoute, c'est une bonne question. Non, mais je pense que si tu recodes tout, tu peux y arriver, hein. C'est juste qu'il faut recoder tout de zéro. Et donc, ça demande énormément de temps et d'efforts et de fric. Mais bon, Amazon a énormément de fric. Bon, voilà quoi. Je pense que c'est tout, hein.
On a utilisé le buzzword intelligence artificielle pendant une bonne partie de cette émission. On va utiliser l'autre buzzword, pardon, c'est celui de la blockchain, parce que justement, dans le cadre d'Amazon Web Services, de la conférence Amazon reInvent 2018, Amazon propose désormais un service, oui, de création de blockchain en un clic. Alors là, c'est l'apothéose sur cette année 2018 en matière de blockchain. C'est formidable. On peut les créer en un clic maintenant, Guillaume.
Exactement, donc le buzzword blockchain c'est maintenant, le buzzword porno c'est un petit peu
Ah
plus
oui,
tard, hein.
attendez, attendez,
Restez
restez
avec
là.
nous, restez avec nous, ça vient. Donc bon, non mais effectivement, Amazon suit aussi la tendance en proposant désormais un service de blockchain, et il n'y a pas grand chose de plus à en dire. C'est un service qui est très simple à utiliser, qui permet de créer, de gérer une blockchain en quelques clics. C'est basé sur Ethereum, mais c'est proposé complètement clé en main, géré par AWS, hein, et c'est vrai que c'est un interlocuteur de confiance. Peut-être que ça pourrait va démocratiser la blockchain, va savoir.
Mais surtout que
Et peut-être même la faire entrer dans la vraie vie, tu vois.
Ouais.
Parce que bon, pour le moment, ce n'est pas ça. Il y a une étude de l'USAID, c'est-à-dire l'US Agency for International Development, qui s'est intéressée à 43 initiatives d'utilisation d'une blockchain pour améliorer les solutions existantes, pour même pour de nouveaux usages, et qui n'a pas réussi une seule fois à confirmer leur efficacité. Voilà, c'est donc en bref, aucune ne fonctionne, ou aucune en tout cas n'apporte les bienfaits annoncés. Donc on est clairement sur la pente très descendante de la courbe de la hype en ce qui
Ouais.
concerne la blockchain. Bon, ça ne veut pas dire que ça va jamais démarrer, mais clairement, pour l'instant, ça reste à prouver, quoi.
Le terme de buzzword est clairement pas exagéré. Moi, je trouvais ça très cool de faire une exploration comme ça de l'univers du stockage en masse, parce qu'on le dit souvent, Amazon Web Services, c'est un acteur très important, mais on a parfois du mal à toucher du doigt des aspects très concrets qui permettent de l'illustrer. Et là, je pense que vous avez eu une revue, pour le coup, hyper concrète dans cet épisode 109 de Tech Café. Et je suis persuadé que vous êtes un petit peu plus calé sur ce que propose Amazon dans ce domaine. On enchaîne avec la rubrique. En bref, qu'on espère la plus brève possible, mais qui, comme toutes les rubriques en bref de tous les épisodes de Tech Café, sera forcément plus long qu'on ne le pensait. En tout cas, tu nous as trouvé une solution formidable. Alors, c'est pas forcément de rigueur. Là, l'hiver, il faudrait qu'on ressorte cette news au début de l'été pour faire là aussi un petit peu de buzz. Mais Google a trouvé la solution pour nous débarrasser de ces saloperies de moustiques, Guillaume.
Ouais, mais tu dis ça, mais tu sais ce qui buzz à mon oreille encore aujourd'hui, encore certaines nuits, alors qu'on est en décembre? Ces saloperies de moustiques, mais oui, mais il y en a
Il y a des
encore,
moustiques
moi ça me
ASMR,
tue
tu
quoi.
crois? Attends, j'essaie.
Arrête, ils vont partir, arrête, ils vont couper le podcast là. Ils ont bien raison. Non, mais les moustiques, c'est une plaie, c'est une horreur. Et alors, ce qui est fou, c'est que y a déjà, voilà, c'est pas facile, c'est vraiment difficile de s'en débarrasser, quoi. Avec le réchauffement climatique, il y en a de plus en plus, et il y a des nouvelles espèces qui arrivent. Et en plus, ces saloperies, en plus de vous empêcher de dormir, ça peut véhiculer des maladies. Du coup, lutter contre, c'est devenu un enjeu qui est majeur, à tel point que Verily, ou Verily, je ne sais pas exactement comment on prononce, qui donc fait partie d'Alphabet, la compagnie parente de Google, quoi, le parent de Google, le papa de Google, si on veut, qui a donc essayé, qui s'est mis essayer d'éradiquer les moustiques dans une partie de la Californie en utilisant une technique qui est, que moi j'avais déjà vue, hein, qui est assez connue, mais bon, qui consiste tout simplement à prendre des moustiques mâles, à les manipuler pour qu'ils soient
Je
stériles
crois qu'on en avait
et
déjà
à les
parlé, hein, de ce
rejeter.
genre d'initiative, effectivement.
Ouais, c'est possible. Voilà, et à les rejeter en masse dans les zones infectées. Bon, évidemment, ils vont s'accoupler avec les femelles et ces femelles n'auront pas d'enfants. Et du coup, bah, c'est terminé, la lignée s'arrête là et c'est super. Le truc, c'est que là, c'est Google qui fait des tests donc pour essayer de voir si ça marche et à quel point ça marche. Et si ça marche bien, ben, ils pourraient utiliser ça sur des zones où il y a des moustiques qui effectivement véhiculent dengue, chikungunya, etc. Ça pourrait être une très très bonne idée.
Bah écoute, c'est ouais, on imagine. En même temps, ça fait toujours un petit peu peur comme ça quand on joue à l'apprenti sorcier en matière de génétique. Et quand on en parlait au début de l'émission, hein, on sait ce qu'on modifie dans un premier temps, mais on ne sait pas ce qu'on recrée derrière. Donc évidemment, à prendre avec beaucoup de pincettes. Mais il faudrait vraiment qu'on creuse les recherches parce que j'ai souvenir effectivement, mais il y a de ça pas mal de temps, hein, qu'on avait déjà vu des initiatives là-dessus. Bah tiens, je vois là dans mes recherches en juillet 2017. Donc je pense que c'est un sujet récurrent qui avance et qui n'est pas abandonné et qui est un vrai sujet de fond. Allez, un petit mot sur le règlement pour la protection des données, le RGPD, parce que il y a des petites news en matière de tracking, Guillaume.
Bah, pas vraiment, c'est pas disant que c'est juste qu'il y a des associations, il y en a sept quand même, donc dans toute l'Europe, qui ont saisi, alors, qui dénoncent, si tu veux, les pratiques de Google en matière de géolocalisation, et qui donc se saisit du RGPD pour dire, bah, non, c'est pas normal, il faut que Google revoie sa politique en matière de géolocalisation, parce que globalement, ils disent que le consentement qui est demandé, enfin le consentement, il soit pas demandé, soit demandé de manière tellement détournée et tellement fourbe que c'est pas vraiment un consentement et donc ils veulent revoir ce truc-là parce qu'ils pensent que les usagers sont pas assez au courant du fait qu'ils sont géolocalisés presque partout, presque par défaut, presque tout le temps par Google et que c'est pas du jeu. Voilà. Donc je sais pas ce que t'en penses,
Bah,
mais
c'est un
c'est un
sujet qui
enjeu,
était
quoi.
vite arrivé en fait quand on avait parlé de RGPD et il y en avait très très vite eu des vidéos de personnes qui montraient à quel point il y avait quelque chose d'abusif de la part de Google. Mais je pensais que ce serait peut-être des initiatives qui resteraient peut-être sans suite, mais j'ai l'impression que c'est peut-être ce qui s'est passé, c'est que c'est tellement resté sans suite et c'est tellement grossier aux yeux de ceux qui dénoncent ça qu'il y a des mouvements qui commencent à s'organiser. Et bah, après tout, c'est pas plus mal parce qu'effectivement, le RGPD a quand même vocation à clarifier ce genre d'usage pour les utilisateurs, pour les protéger. Et effectivement, du côté de chez Google, moi j'avais vu 2-3 trucs qui étaient assez perturbant, mais évidemment, c'est pas les seuls. Hein. Faut pas, à mon avis, pointer du doigt que Google. Je pense qu'il y a encore beaucoup de grands acteurs qui ont encore fort à faire pour améliorer les choses, même s'il y a beaucoup de choses qui ont évolué encore. Il y a un an, on parlait de la directive Photoshop, le décret Photoshop. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, Guillaume.
Oui, si, si.
Mais l'objectif, c'était de lutter hein, contre cette utilisation abusive et exagérée d'amaigrissement de modèles dans les publicités et évidemment les effets pervers que ça pouvait induire en termes de perception par la population. Et l'objectif était louable, mais on regardait un petit peu ça de travers en se demandant comment ça allait pouvoir être appliqué. Donc l'objectif, hein, c'était d'obliger les entreprises à faire apposer sur les supports de communication, notamment publicitaires, où il y avait des usages d'amaigrissement Photoshop, notamment, bah, le fait que c'était photoshopé. Et il y a Numérama qui a fait un petit peu le tour de plusieurs enseignes qui, ben, pour la plupart, ne l'appliquent pas forcément ou qui l'appliquent de manière systématique et préventive. Il y a aussi quelques acteurs à la marge qui mettent en avant le fait que leurs mannequins ne sont pas du tout photoshopés et ils se basent là-dessus. Ils disent, ouais, les photos et les mises en avant de notre côté sont peut-être moins vendeuses, mais en tout cas, c'est authentique. Et en tout cas, forcément, c'est de constater que l'application de cette loi a été assez compliquée et loin d'être faite et que peut-être que ça fait évoluer un petit peu les démarches au global, mais on a encore beaucoup, beaucoup de boulot sur le sujet, je pense. Tu nous fais rêver avec des robots humanoïdes qu'on va pouvoir contrôler à distance. Ça fait penser vraiment à des films de science-fiction, là.
Ben oui, comme dans Avatar, hein, puisque dans Avatar, le héros qui est tétraplégique, donc il va... Non, il est paraplégique, pardon, désolé. Il est connecté à un avatar, bon, tout simplement, qui, en l'occurrence, est bleu avec une grosse queue, il me semble. Mais c'est ça, là, tu peux... Non, il n'y aura pire après. Non, je tease. Non, en fait, là, il s'agit de faire un petit peu la même chose, mais avec un robot, c'est déjà beaucoup plus gérable. C'est un robot qui est donc de Toyota. C'est un robot qui s'appelle THR31, qui est donc humanoïde, hein, et qui peut être commandé à distance, donc il a une caméra, donc vous voyez ce que vous faites, enfin voilà, il y a une sorte de... Donc vous vous mettez dans un fauteuil avec des... comme une sorte d'exosquelette et un casque, et donc vous voyez ce que voit le robot, et le robot reproduit vos gestes. Donc ça c'est pas nouveau, parce que ça a déjà été fait, mais c'était branché par câble, tout simplement. Donc il fallait avoir un gros câble qui aille entre, qui est entre vous et le robot. Là ce qui est très intéressant, c'est que ça a été fait sans câble, en utilisant la 5G. Et la 5G, pourquoi ? Parce que gros débit de données, donc vous pouvez avoir une bonne vision de ce que voit le robot, et surtout très peu de lag, ce qui fait que quand vous bougez vos bras, les mouvements sont répliqués de manière quasi instantanée, et ça, n'importe où. Là, en l'occurrence, c'était à 10 km quand même, en utilisant la 5G. Donc c'est vraiment très très cool de voir ces robots, enfin, de voir ce robot se mouvoir, enfin, c'est vraiment de la téléprésence, quoi. Et tu es dans la peau du robot, tu fais les choses, et le robot est à 10 km, il pourrait être n'importe où dans le monde, peut-être bientôt, c'est assez fort.
Et puis ce qui est génial, c'est notamment, j'imagine, des usages en cas de catastrophe, pour aller faire des sauvetages,
oui,
pour
aller
intervenir dans des zones dangereuses.
C'est but, oui.
C'est top, c'est le futur qui est déjà aujourd'hui pour reprendre des appellations de précédents épisodes. On ne pouvait pas passer à côté aujourd'hui hein, de l'annonce de la Freebox Delta parce qu'elle a été beaucoup teasée au point que moi je commençais à me dire mais qu'est-ce qui va bien pouvoir ressortir avec autant de teasing et de buzz dans la presse tech. C'était un peu le sujet qu'on sentait voir monter. Et en fait, donc la Freebox Delta, puisque c'est son nouveau nom, a été présentée avec sa petite sœur, la Freebox One, qui est la version low cost de la Delta. Bon, il va falloir s'y retrouver dans les offres. Ça me fait penser un petit peu, pour présenter cette nouvelle Freebox, à ce syndrome, tu sais, sur les marchés, Guillaume, quand tu as un vendeur qui te fait une démonstration d'un outil et qui te dit, et vous voyez, avec ceci, je peux faire cela, et moi, je rajoute pour ça cet outil qui vous permet aussi de faire cela, et si vous me prenez les deux, je prends aussi cet outil et je vous fais tout le package pour combien, pour combien, pour combien, et il donne un prix qui t'a pas l'air cher, mais en fait, qui est super cher. Et ben, c'est un peu le même syndrome, je trouve, que la Freebox Delta, puisque c'est un appareil donc de service de type routeur et player télé, qui fait aussi enceinte signée Devialet, donc avec une qualité de son évidemment qui est plébiscitée, je pense, par plein d'audiophiles avec la qualité Devialet, qui intègre Amazon Alexa. Donc, si vous vouliez un assistant, c'est un assistant vocal, bah, c'est parfait, ça remplace votre Amazon Echo. Vous pouvez aussi lui parler en lui parlant, en lui donnant des instructions OK Freebox. Il y a une intégration de Netflix, il y a une intégration de TV by Canal, il y a la possibilité de recharger par induction, mais ça marche pas avec les iPhones, mais de recharger par induction vos appareils. Il y a aussi la technologie fibre 10G. Bon, je ne sais pas s'il y a grand monde qui va pouvoir aujourd'hui profiter de la fibre à 10 gigas, mais ceux qui en profiteront en seront vraisemblablement très contents. 4K, bien évidemment, sur l'aspect télé. Et un truc que je trouve aussi assez malin, c'est des aspects de domotique. Donc, les amoureux de Tech Café domotique, peut-être auront matière à creuser sur ce sujet, puisque il y a des équipements qui permettent de faire notamment de la télésurveillance chez vous. Alors, il n'y a pas de service derrière de télésurveillance avec des vrais humains qui est fourni avec, mais c'est possible, avec 2 € en plus par mois, de rattacher ces équipements de caméra sécurité, détecteur d'ouverture, détecteur de mouvement à une intervention de surveillance à distance. Donc, des éléments de domotique super intéressants, puisqu'on va pouvoir brancher des éléments de lumière, d'interaction, de volets roulants avec du Somfy, etc. etc. Bref, en fait, un super appareil qui n'est pas neutre quand même au niveau du prix, puisqu'on est à 50 à 49 $, 49 € pardon, par mois, sur lesquels il faut rajouter 10 € par mois pour avoir le Player Free. Alors, on peut l'acheter aussi, hein. On peut l'acheter notamment 480 € comptant. Guillaume, toi qui as raconté ton aventure merveilleuse vers un changement d'offre Internet, je vous rappelle que le livre est disponible, ça s'appelle Mon offre sur toutes les bonnes plateformes électroniques ou papier, mais qui vous fera mourir de rire. Donc, le choix d'une offre à Internet qu'avait fait Guillaume Poggiaspola, je vous invite à aller découvrir ça. Est-ce que toi, ça t'intéresse, cette nouvelle Freebox Delta?
Écoute, comme tu dis, c'est une Freebox qui fait tout et plus en fait, et qui le fait pour un certain prix. Si vous utilisez toutes les fonctions, c'est une super affaire, je pense. Vraiment, hein. Si vous utilisez tout, ça fait 60 € par mois. Bon, après, vous pouvez acheter le truc dévialé, mais bon, après, ça n'a aucun intérêt, puisque de toute façon, vous le payez au bout de 4 ans, hein, tout simplement. Donc, si vous êtes, voilà, ça devrait, si vous êtes content, vous allez rester 4 ans, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est vrai que si vous n'utilisez pas tout, parce que vous n'avez rien à foutre de la domotique, parce que vous regardez, par exemple, que Netflix, ou que vous n'avez pas besoin d'un assistant vocal, ou bon, ou d'une enceinte fût-elle de qualité. Ben, moi, je me demande si le Freebox One n'est pas plus intéressant, tout simplement. Hein. Bon, c'est quand même 40 euros. Et là, par contre, il n'y a pas le player, en fait. Hein, parce qu'il y a, globalement, il y a le serveur et le player dans la Freebox Delta. Donc, le serveur, c'est la box en elle-même. Hein, et le player, ben,
Pas
c'est
30 euros
finalement.
La One? Je suis paumé, moi, dans les offres.
Hein? La One?
Ouais, c'est 30 euros, non? Ah non, pardon, c'est
Oui, non,
l'offre
mais c'est
de
pas pendant un
lancement
an.
pendant un an au lieu de 40
Et
euros
oui,
par
pendant
mois,
un an.
excuse-moi.
Après, c'est 40 balles, ouais.
Je me suis fait avoir
D'ailleurs,
par la mention légale.
sur Freebox Delta, donc c'est 50 tout le temps ou c'est 50 au début?
Non, c'est 50 tout le temps, je crois, pour le coup, non.
C'est 50 tout le
Il me
temps,
semble.
d'accord. Donc, non, moi je pense que c'est plutôt une bonne affaire, mais effectivement, il faut utiliser tout ça, quoi. Sinon, ouais, l'autre box peut suffire aussi, hein, la Freebox One est pas mal, je trouve aussi. Écoute, c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de choses et que tu peux rien, enfin c'est tout compris, quoi. C'est-à-dire, l'offre n'est pas, tu vois, l'offre n'est pas sécable en petits morceaux, si je veux pas ci, si je veux pas ça. Donc ça pourra peut-être gêner certains, c'est sûr.
C'est cet aspect package qui peut être un peu parfois déroutant. Enfin, on ne s'attendait pas à ça. Par contre, une chose est sûre, c'est que allez, il faut l'avoir en main, il faut s'en rendre compte, mais parce que les images ont toujours l'air beaucoup plus bluffantes que ce qu'on a parfois dans la réalité. Mais le produit, le matériel a l'air relativement quali et sort quand même de ce qu'on a l'habitude de voir en termes de box, qui sont systématiquement des espèces de blocs de plastique assez dégueulasses. Et bah après tout, oui, comme tu le dis, si ça remplace pas mal d'usages qu'on a déjà habituellement, ça peut valoir le coup. On enchaîne, allez, on va essayer d'aller un peu plus vite avec du papier, du e-ink qui reproduit encore plus finalement qu'avant l'écriture sur papier.
Oui, bah c'est ça, mais en fait, t'as un petit peu tout dit. C'est la compagnie e-ink, non, mais c'est ça, qui a dévoilé un nouveau film qui s'appelle Just Write. C'est un film de papier électronique, hein. C'est pas un film de cinéma. Et ce truc-là, bah, c'est tout simplement du papier électronique qui est tactile, et donc vous utilisez un petit stylet pour écrire dessus, et ils ont veillé à ce qu'il n'y ait pratiquement pas de lag, ce qui fait que vous avez vraiment l'impression d'écrire sur du papier, tout simplement. Et c'est vraiment bon. J'ai déjà dit, hein, j'aime beaucoup le papier électronique, j'en utilise pas mal au quotidien, et j'attends en fait un truc qui pourrait être une tablette, mais une tablette e-ink, quoi, sur laquelle on pourrait écrire, sur laquelle qu'on pourrait plus largement utiliser. Et je pense aussi que ça peut être des trucs intéressants à l'école, ça peut être un truc intéressant pour faire remplacer des paperboards ou ce genre de trucs, quoi. Donc moi j'aime beaucoup ce genre d'initiative, c'est pour ça que voilà, ce Just Write, je trouvais ça intéressant.
Ça t'a hypé à mort. Très bien.
Exactement.
Un petit mot, parce que tu sais que je ne suis pas convaincu par les usages des écrans pliants. C'est un débat qui sans doute va s'installer dans les tech cafés à venir, puisqu'il y a justement Oppo qui prépare ces petites choses, hein, pour le Mobile World Congress. Donc il y a des choses qui vont être annoncées là-dessus. Mais il y a un brevet de Samsung qui est passé un petit peu, qui n'est pas passé forcément justement inaperçu, qui invente un smartphone. Où en fait il faut s'imaginer que c'est pas l'écran que tu déplies qui devient plus grand, mais simplement tu l'étires. Donc ton smartphone, tu l'étires et ça devient une tablette. Et je crois que là encore une fois, il y a plein de films de science-fiction où tu sais, t'as deux barres que tu étires et que du coup tu laisses dérouler un écran. Bah du coup, j'ai tendance à penser que si jamais tu dois avoir un petit écran qui se transforme en grand, et si tant est que cet étirement est pas fixe mais réglable selon la largeur que tu veux. Là, pour le coup, je serais plus intéressé en termes d'usage. Tu vois, je me vois plus le cas d'intérêt d'avoir un petit écran qui devient un grand écran. Et peut-être que maintenant qu'on voit le rêve des écrans pliants devenir une réalité, il faut peut-être commencer à anticiper les rêves d'après. Donc voilà, l'écran est tirable. Je ne te demande pas si ça t'intéresse, puisque toi déjà, tu es très intéressé par un écran pliant, Guillaume.
Oui, oui, tout à fait. Mais attention, parce que du coup, comme c'est pliant, comme c'est enroulé, ça va être un petit peu épais.
Tu vois, ouais, alors après, je demande à voir le niveau d'épaisseur des smartphones pliants, justement. Pour voir.
Tout à fait, tout à fait. Mais par contre, moi, je trouve que c'est très intéressant aussi, comme idée.
Ouais, ça me paraît cool. Ah, on le suivra, évidemment. Des soldats, alors on parlait tout à l'heure de soldats augmentés génétiquement, peut-être qu'avant de les augmenter génétiquement il y a des trucs à faire, et là on va peut-être s'appuyer de technologies qui ont fait leur preuve en termes de notamment de réalité augmentée, Guillaume.
Oui, bah c'est presque un follow-up parce que je vais parler du projet Jedi, enfin du projet de l'appel d'offres Jedi du gouvernement américain pour essayer d'équiper les soldats du futur. Donc c'est une grosse enveloppe, et donc sur cette grosse enveloppe il y a Microsoft qui a raflé quand même 480 millions de dollars pour équiper les soldats en HoloLens, donc ces fameuses lunettes de réalité augmentée, jusqu'à 100 000 HoloLens qui pourraient donc être produites et distribuées aux soldats. Alors évidemment c'est pas des HoloLens qu'on voit actuellement, mais des versions très spécifiques, hein, des versions qui seraient largement durcies et qui intégreraient des trucs comme déjà la vision, des visions thermiques, des visions de nuit, etc. Donc c'est assez marrant. Bon bah donc ça veut dire que Microsoft va travailler pour l'armée. Bah, forcément, là, ils étaient plusieurs. On avait parlé d'Amazon aussi qui était sur les rangs. Il faut bien dire quand même que Jedi, c'est 10 milliards de dollars de contrats. Donc forcément, ça a attisé les convoitises.
Je pense qu'on se rend pas compte quand même du budget que ça peut être, effectivement. Là, tu disais, c'était près de 500 millions de dollars, hein, c'est ça? Si je dis pas de bêtises, le contrat.
Ouais, tout à fait. Ouais, 500, presque 500 millions de dollars.
Incroyable,
ouais.
Déjà, spontan. It's me, Mario. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté de Nintendo, la Minute Nintendo?
Ben oui, la mini Nintendo, pour dire que le programme Creators machin, là, c'est-à-dire globalement le fait que si vous vouliez jouer sur YouTube à des jeux Nintendo, il fallait le dire à Nintendo et reverser une partie des dividendes à Nintendo.
Certains l'appellent ben, l'article ça, c'est fini. 13 Nintendo.
C'est un petit peu ça. Ben oui, ben ça c'est fini, ça y est, à la fin de l'année, le programme sera terminé. Et du coup, bah, vous pourrez à nouveau jouer à des jeux Nintendo sur YouTube. Et puis, bah, voilà, ce sera votre affaire et c'est très bien comme ça.
Et tant mieux, il rentre un petit peu dans la réalité Nintendo, c'est cool. Y a un petit moment qui est pas mal, allez, on va l'encourager. Les iPhones, c'est des produits, quand ils sont bien paramétrés, inviolables. Ouais, c'est impossible d'aller les accéder. On avait déjà parlé de ces appareils qui promettaient à des gouvernements et à des institutions, moyennant gros investissements, de les ouvrir. D'ailleurs, ça a été patché avec les dernières versions d'iPhone et d'iOS. Mais il y a une société qui te promet, malgré tout, d'aller accéder à n'importe quel iPhone, Guillaume. Vite, vite, vite!
C'est ce que dit Drive Savers. Drive Savers, c'est une entreprise américaine qui, assez incroyablement, moyennant finance, te permet de rentrer dans n'importe quel iPhone et de le débloquer tout simplement et pour aller chercher les données. Des iPhones, mais aussi des Huawei, des Lenovo, des LG, des ZTE. C'est très 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 étonnant parce que tout simplement, non seulement c'est une technologie qui n'est pas du tout connue parce que c'est absolument pas comment ils font, ils le disent pas, sans doute pour des raisons évidentes, mais bon. On aimerait bien avoir une idée quand même. Mais donc, on ne sait absolument pas comment ils font, on ne sait absolument pas comment c'est possible, surtout sur les dernières versions d'iOS. Et en plus, ils proposent ça donc à tout le monde. Et alors qu'avant, c'était plutôt des choses extrêmement chères qui étaient réservées donc aux forces de l'ordre aux gens qui avaient les moyens, quoi. Là, c'est vraiment pour tout le monde. Leur cas d'usage le plus... le cas d'exemple qui donne, c'est, vous avez quelqu'un qui est décédé, vous voulez accéder à son téléphone, vous donnez les documents comme quoi, pour s'assurer que vous êtes, par exemple, l'époux ou le fils du décédé, vous payez 3 000 $ et boum, on vous débloque le téléphone. C'est magique, c'est Houdini, je ne sais pas comment ils font, mais en tous les cas, c'est ce qu'ils disent.
C'est pas eux qui demandent, notamment, ils peuvent être amenés à demander des certificats de décès, des trucs comme ça.
Tout à fait, ils te demandent, ils ont une éthique.
Ils ont une éthique, voilà, quand même, hein, pour vendre leur truc. Un petit mot sur la sécurité avec une histoire de certificat, Guillaume.
Je ne sais pas si vous utilisez des casques Sennheiser et si vous avez utilisé Head Setup, pour Windows ou macOS d'ailleurs, c'est pareil. Mais si c'est ça, il faut faire attention parce que apparemment, le logiciel fait une énorme bourde avec ses certificats. C'est-à-dire qu'en gros, il crée un certificat plus ou moins bidon qui est valable jusqu'en 2029 et qui, s'il est récupéré, et il est facilement récupérable, peut permettre à n'importe qui de se faire passer pour un site de confiance sur Internet. Et du coup, avec tous les problèmes que ça implique. Donc si vous utilisez ce genre de logiciel, faites gaffe, hein, ça montre que il suffit de pas grand-chose pour transformer un logiciel qui peut être utile, disons ma foi, s'il fonctionne normalement, qui peut être utile en une espèce d'énorme faille de sécurité.
La vigilance est de mise, on s'approche tout doucement hein, de la minute porn, ne nous quittez pas tout de suite. Un partenariat NASA et avec plusieurs sociétés privées pour une exploitation de la Lune, Guillaume.
Dans un second temps, mais disons que c'est la première fois, la NASA a annoncé jeudi dernier qu'il avait noué un partenariat avec 9 compagnies privées pour envoyer des trucs sur la Lune ou pour envoyer des instruments sur la Lune. Et du coup, ça préfigure déjà d'une part d'un partenariat plus qui est plus, disons, plus étroit entre la NASA et le privé, mais aussi éventuellement du fait que peut-être un jour on puisse évaluer la Lune comme étant quelque chose qu'on peut exploiter pour plein de trucs, en fait, hein, tout simplement pour y récupérer des ressources minières, comme des terres rares ou je sais quoi, ou qu'on puisse l'utiliser comme base pour envoyer d'autres trucs dans le système solaire, etc. etc. Donc ça commence tout doucement à faire son chemin, l'idée que la Lune pourrait être tout simplement une terre comme les autres.
Dans quelques temps, quand on arrivera à faire transiter des données facilement entre la Terre et la Lune, je suis sûr qu'Amazon Web Services installera des centres de données sur la Lune. C'est obligé.
De toute façon, Elon Musk qui va faire Internet sur Mars très bientôt.
Oui, ça va venir. Mais patience, chaque chose en son temps. C'est la minute porno, Guillaume.
Oui, en fait, c'est tout con. C'est que juste Starbucks a dit, ça y est, bon, maintenant c'est fini, il y en a marre des Fappuccino. Il va bloquer le porno sur ses accès Wi-Fi dans ses cafés. Alors moi, je croyais que c'était déjà en fait le cas.
Ouais, moi aussi, je pensais que c'était
très surpris
quand même.
Ce qui m'a le plus surpris, c'est de savoir qu'en fait, tu pouvais aller tranquillou voir du porno dans ton Starbucks et que c'était possible. Si t'avais su, hein, c'est ça. Si j'avais su. Et donc, c'est ce qui est le plus rigolo, c'est que Pornhub a répondu au blocage des sites porno sur Starbucks en mettant en place une section Safe for Work où tu peux regarder des vidéos non pornographiques. Donc on se demande évidemment qui veut aller sur Pornhub pour regarder des vidéos non pornographiques. Et pourtant, y en a plein, en fait. C'est ça qui est assez extraordinaire. Mais bon, voilà, c'était la minute rigolote.
Ils sont forts, ils sont forts. On a parlé...
Et au passage, oui, je voulais aussi mentionner, puisqu'on y est, on est dans ce truc-là, que Tumblr aussi a décidé de bannir le porno de sa plateforme. Tumblr, qui était déjà pas très, depuis leur achat par Oath, qui n'était pas très très en forme. Bon, là, voilà, maintenant, tout contenu explicite, voilà, tout est interdit, hein, donc porno, bien sûr, mais aussi nudité, téton, tout ça, c'est interdit. Bon, donc, je pense qu'on peut dire repose en paix, Tumblr.
Je crois que c'est clair. C'est peut-être le signe le plus évident de la mort de Tumblr, effectivement. Et puis un dernier mot, puisqu'on parlait du Palm Phone, cette espèce d'accessoire... mignon pour accompagner votre vie et la vie de votre smartphone, parce que du coup il commence à y avoir des tests, Guillaume.
Oui, il y a eu un test du Palm, le mini Palm, donc ce truc qui fait 3 pouces 2 et qui est donc un téléphone secondaire, qui était vendu comme un téléphone secondaire, qui était donc vendu comme une espèce d'alternative à une smartwatch, mais bon, qui n'est pas une smartwatch. Ce truc-là, donc, est tout petit, c'était censé être un truc secondaire, mais ça coûte quand même 350$, donc c'est quand même cher, et ça a une autonomie déplorable, et c'est bon à peu près que dalle. En tout cas, Ars Technica juge que c'est un des pires appareils qu'ils aient jamais testé. Donc bon, si vous avez 350 balles à mettre dans un appareil secondaire, achetez-vous une smartwatch.
Oui, c'est ça. Les mauvaises langues diront 350 balles et une autonomie pourrie, c'est une Apple Watch. Mais ça, ce serait les mauvaises langues qui diraient ça. C'est pas joli. On a fait le tour de nos news assez complètes, hein, dans l'univers de la tech pour cette semaine. J'espère évidemment que toute cette vision à la fois autour de la Chine, de l'IA et de ce qui se passe du côté d'Amazon Web Services vous aura intéressé, vous aura appris des choses, et j'espère que cette revue, en bref, vous permettra d'avoir une vue complète sur tout ce qu'il fallait suivre cette semaine. On va dire que c'est garanti ou remboursé, mais avant de parler d'éventuels services après-vente, on enchaîne avec les bonus. Guillaume, qu'as-tu emmené dans ta besace pour le 109e épisode de Tech Café?
Bah, un truc 18+, quand même, puisque... On a parlé de Pornhub, alors comment ne pas recommander le subreddit? Donc le subreddit Pornhub Comments, le principe est simple, hein, les utilisateurs relaient sur Reddit les meilleurs commentaires qu'on trouve sous les vidéos Pornhub. Parce que comme sur YouTube, hein, si vous n'êtes jamais allé sur Pornhub, vous pouvez laisser des commentaires au-dessous des vidéos. Et donc, bon, c'est pas une channel qui est donc explicitement pornographique, mais évidemment, pour des raisons évidentes, il peut y arriver que les commentaires soient un petit peu salaces, hein, je vous assure. Mais bon, la plupart du temps, les commentaires sont savoureux parce qu'ils sont complètement what the fuck, humoristiques, ou juste complètement débiles. Mais voilà, moi je trouve ça assez drôle en général. Il faut maîtriser l'anglais quand même pas mal, parce qu'il y a pas, bon, il peut y avoir de l'argot et tout ça. Et surtout, bah, c'est pas pour les chastes âmes sensibles, mais bon, c'est quand même très drôle, donc si vous avez 18, plus de 18 ans, allez faire un tour.
Je vais aller jeter un coup d'œil quand même. Et puis moi, pour les bonnets, je voulais relayer un petit article assez intéressant, que j'ai trouvé particulièrement intéressant du côté de chez Numérama, qui est intervenu pour décrire ce qui faisait qu'on avait quelles étaient nos barrières mentales par rapport au réchauffement climatique. C'est vrai qu'il faut le reconnaître, c'est un sujet peut-être dont on est de plus en plus sensibilisé, mais ça reste un truc un peu lointain, un peu distant, qui fait que ça n'a pas la même urgence que le prix du gasoil, par exemple. Et il y a toute une description de la part d'un chercheur norvégien qui décrit un petit peu quelles sont les mécaniques dans notre esprit, dans notre fonctionnement, qui nous amènent justement à avoir pas mal de distance. Donc tout ça est très bien expliqué, je ne vais pas le réexpliquer, l'article se lit suffisamment bien, et puis il y a quelques vidéos qui vous permettent aussi de mieux comprendre les mécaniques. Mais j'ai trouvé ça intéressant de voir qu'il y a toute une genèse, notamment de par les publications scientifiques qui sont souvent assez difficiles à appréhender ou qui sont difficiles à comprendre parce que relativement complexes et qui sont du coup réduites à des expressions assez faciles et assez galvaudées pour le grand public. Et puis aussi nos mécanismes d'évitement, comme c'est indiqué. Je cite, hein, nous avons développé des mécanismes d'évitement en ne lisant pas un article au sujet de l'état de la planète, mais plutôt sur autre chose, un peu comme si on changeait de trottoir pour éviter quelqu'un que l'on n'aime pas. Et puis on finit par projeter des stéréotypes sur la situation du genre « Non, mais si c'est si grave, on n'a qu'à tous se tuer. Hein. » Et puis de dire « Finalement, c'est peut-être pas si grave que ça, moi je vois pas trop les changements. » Et puis de redire « Tout cela semble extérieur à notre propre bulle. » Donc cela nous touche moins, difficile de se sentir concerné par les pluies diluviennes qui ravagent le Japon quand on est confortablement en train de dîner assis sur le canapé. C'est toujours intéressant de regarder pourquoi est-ce qu'on arrive à se mettre soi-même de la distance sur ce sujet qui, moi personnellement, me sensibilise de plus en plus dans mes réflexions au global, qui est celui de notre rapport à la planète. Merci beaucoup Guillaume pour tout le travail éditorial, de veille, de compilation et de rédaction surtout, hein, si vous n'avez pas l'habitude de regarder les news sous la forme des notes sur techcafé.fr, surtout allez-y parce que je crois que c'est presque un épisode dans l'épisode d'aller lire la façon dont sont articulées les news. Merci beaucoup pour ta présence aussi pour cet épisode. Merci pour les épisodes au passage que tu fais quand je ne suis pas dispo puisque ça va se renouveler incessamment sous peu, et oui, la semaine prochaine ce sera à nouveau un épisode sans moi, sans Guillaume Vendée. Guillaume, est-ce que tu peux nous rappeler en attendant où est-ce qu'on peut te joindre sur Internet si on souhaite discuter avec toi et en savoir un peu plus?
Bah écoute, on ne peut plus me retrouver au Starbucks du coup, peut-être au McDo, je ne sais pas. Tu crois que c'est encore permis?
Bah il faudra tester. Je vous invite à tester et dites-nous si il y a des filtrages sur les Wi-Fi du McDo.
Voilà. Non mais j'y vais de ce pas.
Bon, très bien. Tu nous envoies un message du coup sur le groupe Telegram de Tech Café. Hein,
allez, on va faire ça.
Merci beaucoup Guillaume. Moi, vous me retrouvez sur mon site guillaumevendée.fr. Je vais le faire un petit peu évoluer pour vous donner un meilleur aperçu de tout ce que je peux faire en ligne. Ce sera une seule adresse pour retrouver tout ce que je fais, et vous pouvez aussi me retrouver plus facilement peut-être sur Twitter avec mon compte Guillaume Vendée tout simplement. Merci beaucoup à vous de votre fidélité, merci beaucoup à vous qui soutenez Tech Café via Patreon, ça compte évidemment énormément votre participation financière épisode après épisode qui continue à évidemment nous stimuler, et je pense que par certains aspects le fait d'avoir cette rémunération est un élément de motivation quant à la régularité et quant au fait de continuer à faire quoi qu'il en coûte ce podcast pour vous apporter les news de la semaine compilées et prêtes à être consommées. Merci beaucoup par avance aussi à ceux qui prendront le temps d'aller déposer un petit avis, une petite évaluation sur les magasins de podcast qui nous permettent de remonter dans les classements, un petit clin d'œil notamment au classement de Podcastéo puisqu'on est arrivé dans le top 100 des podcasts qui sont référencés par Podcastéo, et on compte sur vous pour nous écouter encore plus, pour partager le podcast autour de vous et nous faire grimper dans ce classement épisode après épisode. Je vous dis rendez-vous à très bientôt dans un prochain épisode de Tech Café. Ciao à tous.
Ciao à tous.